Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud.
Bonjour à tous, en ce beau lundi de juillet. Alors, excusez-moi, c'est vrai que cette musique, moi, elle me donne toujours envie de prendre la route avec vous, mais c'est une autre ambiance que j'aimerais vous faire entendre aujourd'hui. Bon, bien sûr, ça correspond à des vacances plus tranquilles, plus cool peut-être, hein, que cette frénésie qui nous prend lorsqu'on entend la musique de la route. Les amis, cette musique, c'est celle d'un génie. Ce génie nous a quitté samedi et je voulais lui rendre hommage, voilà, en l'écoutant un petit peu en votre compagnie. Il s'agit de Jean Gilberto, un génie de la samba, créateur du mouvement de la bossa nova, qui était vraiment la frontière entre le jazz et la samba, avec ses airs brésiliens et Stan Getz au saxophone. Il a bercé beaucoup de l'enfance et de la jeunesse d'entre nous et il va nous accompagner toute l'émission et peut-être toute notre vie et même bien au-delà. C'est ça le génie, c'est de pouvoir perdurer dans l'histoire par son art. Et Jean Gilberto, de ce point de vue-là, on n'a pas de souci à se faire. Alors salut l'artiste, et on va nous immédiatement retrouver notre route habituelle pour partir du côté de Cannes aujourd'hui en votre compagnie. Cannes et l'arrière-pays cannois, attention, hein. Quand je dis Cannes, c'est pas uniquement la croisette, c'est pas uniquement les bling-bling, c'est pas uniquement les palaces, c'est aussi l'arrière-pays, ses maraîchers, ses producteurs, ses grands chefs, hein, parce que des grands chefs étoilés, il y en a beaucoup sur la Côte d'Azur et dans le pays autour de Cannes. Croyez-moi, on va se régaler. Et en première partie d'émission, on s'intéressera à un sujet qui est, bah, je dirais, assez connexe, hein, d'ailleurs, avec ce sujet cannois, c'est le vin rosé. Le vin rosé est-il toujours tendance? Est-il toujours la boisson de votre été? On va y répondre tout à l'heure en compagnie de vignerons et de spécialistes du vin qui nous parleront de ce phénomène, hein, parce que c'est quand même un phénomène de vin. Mais tout de suite, on retrouve notre Marine. Bonjour Marine.
Bonjour Vincent, bonjour, hein, à tous.
C'est l'heure de la revue de presse de Marine Van Tournout.
Sud Radio, les routes de l'été, la revue de presse des régions.
Marine, cette revue de presse des régions, eh bien, des régions et même au-delà, hein, aujourd'hui. Vous avez démarré, en fait, dans votre pays d'origine, parce que c'est le Tour de France qui est allé une des quotidiens régionaux.
Oui, deux jours pour voir le tour dans ce numéro spécial de l'Ardennais. Après un week-end inaugural en Belgique, la 106e grande boucle arrive en France aujourd'hui. Départ de Binche en Belgique pour une arrivée à Épernay dans la Marne.
Attendez, ce que je vous ai mis,
bah, oui, ah bah,
c'est quoi cette musique?
Bah, c'est la musique des Gilles de Binche.
Des Gilles de Binche, parce que Binche en Belgique, c'est la cité du carnaval.
Tout
avec ses petits personnages, enfin ces gros personnages avec leurs chapeaux de plumes d'autruche blanche.
Tout à fait.
Ah, c'est merveilleux, les grelots. C'est la fête, hein.
C'est la fête, mais c'était en février-mars, plutôt le carnaval.
Oh, ils en ont certainement sorti pour le tour un petit peu, hein, quand même, hein, pour les montrer. Allez, je vous laisse continuer, excusez-moi, mais je pouvais pas résister.
Il n'y a pas de souci. Donc, ce départ de Binche en Belgique arrive à Épernay dans la Marne. Le tour sera dans la région Grand Est pour quelques jours. Il y a 11 pages de dossiers à découvrir dans le quotidien l'Ardennais, entre anecdotes du peloton, meilleurs spots pour voir passer les coureurs, témoignages de pros, les amateurs de cyclisme, eh bien, ils sont servis.
Oui, ils sont carrément servis. En revanche, du côté de l'actu d'Occitanie, c'est pas tout rose et c'est pas tout joyeux, hein.
Notamment, oui, ce drame fait la une ce matin de l'Indépendant. Le quotidien titre « Tuée au cimetière ». La jeune fille de 18 ans qui avait disparu samedi soir à Estagel dans les Pyrénées-Orientales y a été retrouvée. La victime avait passé la soirée au bal annuel des sapeurs-pompiers. Sa famille s'était inquiétée de ne pas l'avoir rentrée à 2h du matin. Ils avaient immédiatement fouillé les environs et c'est finalement un visiteur venu se recueillir hier sur une tombe qui a fait la macabre découverte. Elle aurait reçu des coups de couteau au niveau du cou. Le maire se dit abasourdi par ce drame, Roger Ferrer. La commune entière est en deuil et l'enquête a été confiée aux gendarmes de Rivedalt avec l'appui de la section de recherche de Montpellier.
On dirait un horrible film d'horreur. Vraiment,
c'est dur
pour cette actu du lundi. Oui, on y pense très fort, hein, les papas de filles notamment. Bon, allez, on change de sujet. Le train du futur va peut-être nous emmener à Toulouse.
Et oui, c'est la Dépêche du Midi qui titre cela. Avez-vous déjà d'ailleurs entendu parler de l'Hyperloop, Vincent ?
Bah non. À ce jour, non. Et pourtant, je m'intéresse à toutes les sciences et techniques.
Eh bien, ce sera le transport du futur. Mi-TGV, mi-avion, capable d'évoluer à près de 1000 km/h en lévitation dans un tube sous vide. C'est Hyperloop Transportation Technologies qui a annoncé ses premiers essais habités en 2020. La société californienne en est persuadée. Toulouse va entrer dans l'histoire du train. La ville rose est déjà capitale de l'aviation avec Airbus, de l'espace, avec le carburant des fusées Ariane. Une autre corde à son arc. Il faut savoir que la première piste d'essai de 320 mètres de long du site de Toulouse-Francazal est opérationnelle depuis ce printemps. Un autre tube d'un kilomètre de long va être construit prochainement sur des pylônes de plus de 5 mètres de hauteur. La société a exposé sa technologie et ses normes de certification à la Commission européenne et au ministère américain du transport. La machine est donc lancée, Vincent.
Et je
m'étonne que vous ne connaissiez pas Hyperloop.
Vous m'apprenez des choses, hein, mais aux auditeurs aussi le matin, chère Marine. Et j'espère simplement qu'il sera prêt pour notre voyage pour Toulouse. Hein, je rappelle qu'on y va le 18 juillet.
Non, il ne sera pas prêt pour...
il ne sera pas prêt pour nous.
Si vous m'écoutiez, premiers essais 2020, Vincent.
On peut faire des rêves,
non ? Sur les doigts.
On peut faire des rêves. Non, parce que nous, on va y aller en fusée, probablement. Hein. Je vous rappelle Toulouse le 18 juillet, puisque nous, on sera à la Cité de l'Espace. Hein, et nous parlerons de cet anniversaire qui s'annonce le 21 juillet du premier homme sur la Lune.
Hein.
On fera une journée spéciale Lune et Espace.
On sera en gravitation à Toulouse.
J'espère. Au moins ça, ma chère Marine. Merci beaucoup, Marine. À la fin de votre revue de presse, vous savez que j'aime bien aller fouiller un petit peu, moi aussi, de mon côté, dans la presse quotidienne régionale.
Eh bien, oui.
Et alors là, on va parler de la forêt. Parce que moi, j'aime bien la forêt. Et oui, quand fait chaud, c'est un endroit où on est à l'ombre, on est tranquille, où on est en méditation.
Et puis les bruits de la nature.
Les bruits de la nature, oui, c'est vrai, s'il n'y a pas une autoroute qui passe trop loin. Oui. alors, c'est avec Bernard Almeraz que nous avons au téléphone de l'Office national des forêts. Bonjour Bernard.
Bonjour Vincent.
Bernard, vous êtes en Auvergne, vous, hein, du côté du Mont d'Or.
Tout à fait.
Alors,
la station thermale du Mont d'Or.
Voilà, le Mont d'Or, ça c'est le Puy de Dôme, c'est magnifique d'ailleurs. Hein. Si vous passez par le Massif Central, nous on ira évidemment, hein, avec les routes de l'été. Il y a bien un moment où on sera autour du Puy de Dôme et dans cette chaîne des puits. Alors, vous avez créé en fait le Sylvatorium. Alors, le Sylve, c'est le préfixe de forêt, hein, tout ce qui est sylviculture, etc. Premier sentier sylvatique de France. De quoi s'agit-il ? Racontez-moi un petit peu.
Alors, l'idée, c'est un petit peu de montrer la forêt sous un aspect qu'on ne la connaît pas forcément.
Oui.
C'est-à-dire montrer les bienfaits des arbres et le bien-être que peut apporter la forêt. Donc, on a créé un sentier qui est relativement court, hein, qui fait un petit kilomètre de long.
Oui.
Et qui nous permet de découvrir tous les bienfaits qu'apportent les arbres. Alors, ça va être ce qu'on connaît bien habituellement, c'est-à-dire les huiles essentielles. Ça va être également les lumières, les ombres, les couleurs.
Oui.
Ça va être également, vous le disiez tout à l'heure, le bruit atténué. La forêt sucre crée énormément de bruit. Et puis, il y a d'autres bruits qui nous sont plus familiers, le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles.
Oui. Ça veut dire qu'on est accompagné ou est-ce que ça veut dire qu'il y a un parcours qui est entièrement balisé, fléché, où on trouve des petits panneaux explicatifs sur le sentier ?
Voilà, c'est complètement libre, c'est effectivement la nouveauté, hein,
oui.
C'est-à-dire que chacun peut emprunter librement et gratuitement ce sentier. Il est accessible depuis le Mont d'Or, donc depuis le funiculaire, un très vieux funiculaire qui a plus de 100 ans, et donc quasiment sans dénivelé, on peut accéder à ce sylvatorium. Et on a créé un certain nombre d'espaces qu'on appelle des spas forestiers qui sont équipés de ce qu'on appelle des baignoires, enfin, ces grandes baignoires en bois. Le principe est un petit peu à la fois de découvrir ces nouveaux aspects de la forêt, ce bien-être, ce qu'apporte la forêt, mais également de mettre les gens en situation d'éveiller leur sens et de percevoir un petit peu tous ces paramètres forestiers.
Oui, bien sûr.
Voilà, donc le principe,
et de s'immerger, quoi, vraiment de s'immerger. C'est une immersion dans la forêt, être soi-même presque un animal de la forêt, le temps du sentier.
Voilà, ça nécessite effectivement de se laisser aller, de respirer, de ralentir. Et puis voilà, d'ouvrir tous ses sens, parce que c'est vrai qu'on a peu l'habitude d'utiliser tous nos sens, et la forêt c'est vraiment un lieu particulier pour le faire.
Alors les forêts du Mont d'Or, elles sont largement des forêts de feuillus, j'imagine, hein ?
Pas complètement, non.
Pas complètement.
La commune du Mont d'Or est à peu près à 800-900 mètres d'altitude, la forêt est un petit peu au-dessus, on est à 1000 mètres. Donc on a plutôt des sapins, des épicéas,
d'accord.
et également des hêtres.
Et donc c'est mixte,
Voilà, très très mélangé, voilà, oui, très très vieux sapin.
Excusez-moi Bernard, mais j'ai l'impression, peut-être je me trompe totalement, mais parce que moi je suis franc-comtois d'origine, j'ai l'impression qu'il y a un petit accent, vous n'avez pas l'air vraiment auvergnat, vous, de naissance.
Je suis né à Nîmes.
Ah, voilà, vous, êtes gardois, vous êtes gardois, vous êtes remonté. Hein,
voilà, je suis remonté dans ma région et j'y ai vécu quelques années. Et j'y trouve beaucoup de plaisir et notamment à fréquenter les forêts auvergnates.
Qui sont très splendides. Hein. Et très mélangées, on peut dire. Vraiment, c'est un peu un moyen terme entre le sud et le nord. Il y a, vous direz, le Massif central, c'est assez logique, hein, d'une certaine façon. En tout cas, c'est un peu un exemple de la forêt française telle qu'on peut la rêver, quoi.
Voilà, on est à l'interface avec différents climats, climat méditerranéen, climat océanique, climat continental. Donc, effectivement, on a une grande richesse au niveau des espèces végétales.
Ok, merci beaucoup Bernard Almeraz de l'Office national des forêts. Ça donne envie d'aller en Auvergne visiter le Sylvatorium. Je rappelle, c'est sur la commune du Mont d'Or, dans le Puy-de-Dôme. Voilà, et bonne journée, un très bel été. Un très bel été, sans feu de forêt, hein, bien sûr, hein, pour l'ONF, c'est important, hein, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Merci beaucoup. Les amis, on est bien là pour l'instant. Si vous avez envie de réagir, hein, au cours de l'émission, raconter un peu votre canne, votre arrière-pays cannois, vous pouvez le faire à tout moment au 0826 300 300, et puis sachez qu'en fin d'émission, on jouera pour vous faire gagner un guide Michelin, hein, juste avant midi. Et puis aussi, si vous voulez nous raconter le tube de l'été tout à l'heure, je vous dirai ce que c'est. En fait, on va se servir d'un morceau de Jean Gilberto. Allez, on revient immédiatement pour le débat dans un tout petit instant.
Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud.
Retour sur nos routes de l'été, mes chers amis. Routes de l'été qui nous mèneront dans la deuxième heure de l'émission du côté de Cannes et surtout l'arrière-pays cannois. Hein. Tous les contreforts de ces Alpes, puisqu'on est dans les Alpes-Maritimes. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à un autre sujet de vos vacances. Vous savez, dans cette première heure, on aime bien se poser les questions que se posent les vacanciers ou ceux qui préparent leurs vacances. Alors, ça fait quelques années que le vin rosé est la boisson de nos vacances. Est-ce que c'est encore le cas ? Est-ce que c'est encore la boisson à la mode ? Avec toujours grande modération, bien sûr. On va y répondre immédiatement.
Sud Radio, les routes de l'été, la parole aux régions.
Alors, il faut s'adresser à ceux qui connaissent le sujet et j'appelle un vigneron d'abord, un vigneron dans le Var, Alain Bassineau. Bonjour Alain.
Bonjour Vincent.
Comment ça va ?
Très très bien.
Quel temps il fait chez vous ce matin ? Un peu orageux ?
Un petit peu orageux, mais toujours très chaud. On attend que les températures baissent un petit peu, mais tout va bien pour la vigne en tout cas, et donc ça nous convient.
Voilà, Cuers dans le Var, qui est à quelques encablures de la mer. Hein. On n'est jamais très loin de la mer dans le Var, de toute façon.
On a le marin l'après-midi qui arrive, et c'est très agréable.
Alors, Alain Bassineau, il est vigneron, donc, évidemment, mais surtout, il a été pendant 12 ans, je crois, président de la Chambre d'agriculture du Var. Hein, et on va rappeler que la viticulture, et surtout dans le Var, c'est une grosse partie de l'agriculture.
Oui, c'est 50% du chiffre d'affaires et des surfaces dans le Var.
Oui, donc c'est très important.
C'est une part importante, ouais, bien sûr.
Donc d'où l'intérêt, à ce moment-là, vous avez arrêté l'année dernière, d'être à la fois vigneron et président de la Chambre d'agriculture, c'était mener aussi le combat de la viticulture dans cette région de France.
Tout à fait, j'ai toujours mené des combats. J'étais aussi président de l'interprofession, du centre de recherche sur le vin rosé aussi, et alternativement aussi des vignerons indépendants du Var. Donc c'est vrai que je me suis toujours beaucoup investi et c'est important de le faire.
Eh ben ça tombe bien, Alain, ça veut dire que vous connaissez le sujet. Alors d'abord, qu'est-ce que ça représente le rosé, d'abord dans l'histoire des vins de Provence ? Ça s'est toujours fait ?
Oui, effectivement, le rosé, on dit très fréquemment que c'est en Provence qu'il est né, mais c'est la réalité. C'est vrai qu'on produisait beaucoup de vins rosés autrefois, il était tout à fait différent, il n'avait pas la qualité qu'il a aujourd'hui, mais depuis une trentaine d'années, il faut reconnaître que la qualité a été appréciée du consommateur, a fortement progressé, et aujourd'hui, on assiste, c'est vrai, à un véritable engouement sur le rosé, qui n'est pas un effet de mode, qui est durable, mais c'est justifié par une qualité qui a progressé, et un goût des consommateurs porté vers cette couleur qui est maintenant devenu un vin rosé.
Maintenant, pratiquement, hein, les Côtes de Provence qui historiquement faisaient du blanc, enfin en font encore un petit peu, du rouge surtout, maintenant c'est pratiquement plus que du rosé.
Effectivement, la proportion sur les 23 ans, c'est près de 90%.
90%?
Oui. Ah, 90% de rosé, oui.
C'est fou, ça a basculé en 15 ans, là.
Ça a énormément progressé, ça bascule en 15 ans sur l'ensemble des appellations. Ouais. Ceci dit, en local, moi j'en parle en connaissance de cause, on vend beaucoup de blancs et de rouges qui sont aussi de très bonne qualité.
Ah oui, et notamment les rouges sur des cépages en plus de garde. Hein, parce que...
Voilà, c'est pas les mêmes cépages sur les rouges que sur les rosés. Hein,
attention, ah d'ailleurs, donc expliquez-moi, c'est pour ça qu'il faut... parce que le rosé, pour ce que j'en sais, grosso modo, Grenache, hein, qui est un grand cépage du sud, et puis le Cinsault, qui est vraiment provençal.
C'est ça, Grenache, Cinsault, Syrah, c'est un peu la bonne clé d'assemblage des vins de Provence. Oui. Vous avez un cépage qui est très intéressant, mais qui est produit vraiment sur des proches du bord de mer, sur des endroits type le Pradé, Carcarane-Lacroix, Fréjus également, qui donne de très très bons résultats en rosé. Mm-hmm. Et voilà, donc après, bien entendu, on peut s'essayer avec d'autres cépages, mais on tourne vraiment autour de ces trois-là pour arriver à obtenir une qualité, une souplesse de les arômes. Voilà, et c'est important de faire un choix sur des cépages qui apportaient cette qualité rosée.
Alors que pour les rouges, il y a évidemment l'introduction du Mourvèdre, ce fameux cépage qu'on retrouve dans le Bandol, par exemple. Hein.
Voilà, vous savez, le Mourvèdre, il vient bien sur toute la bande littorale de la Provence, du Var, etc. Hein. Donc, c'est un cépage qui donne de très, très bons résultats en rouge de garde. Voilà, vous avez aussi un tout petit peu de Cabernet Sauvignon, mais très peu dans l'encépagement des côtes de Provence. Ouais. Et puis, bien entendu, vous avez un cépage qu'on abandonne, qui c'est bien dommage, c'est le Carignan aussi, qui donnait en rouge, dans des très bons terroirs, d'excellents résultats.
Qu'on retrouve dans les côtes du Rhône aussi, hein, évidemment, à Châteauneuf-du-Pape, dans ses 13 cépages de Châteauneuf, le Carignan, qui est un vieux cépage provençal. Alors, tout ça pour dire, cher Alain, qu'en fait, le rosé, c'est pas un rouge raté.
Le rosé, c'est le vin le plus difficile à vinifier.
Voilà, c'est bon de le rappeler, hein, parce que ça a toujours une image un petit peu dégradée, je dirais, par rapport au grand vin de garde, parce que c'est un vin facile, un vin accessible, et pourtant, sur le plan technique, c'est le plus difficile à faire.
C'est le plus difficile à vinifier. Déjà, au niveau du terroir, il faut choisir ses cépages, il faut les conduire correctement. Et puis, c'est vrai qu'il y a un travail considérable au niveau de la cave. À partir du moment où on rentre du raisin dans la cave, il faut faire un pressurage très doux, une macération qu'il faudra bien surveiller. Déjà, il faut la faire à basse température pour éviter de tirer... Le tannin, c'est très bon dans un rouge.
Oui, c'est-à-dire la couleur, elle est dans la peau. Hein. Elle est dans la peau du raisin.
Absolument, il faut savoir que la couleur, elle est dans la pellicule du raisin et que c'est par le biais d'une macération bien maîtrisée à basse température et un pressurage avec beaucoup de douceur qu'on va obtenir ces arômes, ce gras, cette souplesse, mais surtout qu'on va éviter cette dureté. Quelquefois, les rosés, quand ils sont un peu trop colorés, ils ont tendance à être un peu trop durs et donc voilà, c'est vraiment un travail de vigneron qui est très précis, très méthodique et qui se fait justement dans une journée et donc voilà, il faut vraiment être au fait de la technique pour arriver à bien maîtriser
du bon rosé. Mais d'autant que Alain Bassino, dites-moi si je me trompe, mais grosso modo, enfin, je schématise pour ceux qui nous écoutent, hein, pour pas être trop technique.
Tout à fait, oui, bien sûr,
globalement, on va laisser macérer la peau du raisin hein, en grain entier ou une fois pressé avec le jus, le mou.
Voilà.
Hein, et c'est ce qui va faire du rouge si on laisse longtemps, parce que tout le rouge, tous les tanins qui sont dans la peau du raisin vont migrer dans le jus. On est d'accord.
C'est ça.
Donc, comme à l'inverse, et comme on fait des rosés de plus en plus clairs, il faut des macérations hyper courtes, alors, pour faire du rosé.
Ou des macérations courtes, ou des macérations bien maîtrisées à basse température avec les cépages qui vont bien.
D'accord.
Voilà. La différence fondamentale entre un rouge et un rosé, finalement, si on veut vraiment résumer, c'est qu'un rosé, vous faites une macération courte avant fermentation, vous pressez, et la fermentation se fait en phase liquide.
D'accord.
Rouge, vous mettez de la même façon les grains dans les cuves avec la pellicule et la pulpe.
Et on laisse fermenter le grain entier.
Au lieu de durer quelques heures, cette macération va durer plusieurs jours et la fermentation va se faire en même temps. Donc la fermentation sur les rouges se fait en phase solide. C'est ça la différence fondamentale entre un rouge et un rosé.
Voyez, mes amis, ce vin facile que vous buvez avec modération au moment de l'été, peut-être même avec des glaçons dedans ou allongé d'un petit peu d'eau fraîche, eh bien, c'est le vin le plus technique, le plus difficile à faire, ce rosé. Là déjà, il regagne un peu des lettres de noblesse. On va continuer à découvrir ce miracle du vin rosé tout de suite après la pause.
Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud.
Allez, de retour sur les routes de l'été. C'est une route des vins ce matin, puisque nous parlons d'un vrai phénomène à la fois commercial et culturel. C'est le vin rosé. Le vin rosé qui est depuis un moment maintenant la boisson de vos vacances, la boisson de vos grandes tables d'été. Et on est en ligne ce matin avec Alain Bassineau, qui est vigneron dans le Var et qui a été jusqu'à l'année dernière le président de la Chambre d'agriculture. Il connaît bien le sujet du rosé. Et nous avons également avec nous en ligne un ami de l'émission, un confrère. C'est David Cobold. Bonjour David.
Bonjour Vincent.
Alors David, on vous retrouve évidemment toute l'année aux côtés d'Alain Marty dans l'émission In Vino le dimanche à l'heure du déjeuner.
Et le samedi aussi.
Et le samedi aussi. C'est vrai que moi je suis un homme du dimanche, c'est pour ça, pendant l'année. J'oublie parfois le samedi. Donc samedi, dimanche, In Vino, l'émission qui traite du vin. Et donc vous êtes un spécialiste journaliste et spécialiste du vin. David, on était en train de parler avec Alain Bassineau de ce véritable phénomène du rosé dans le monde. Je dirais qu'à un moment où tous les vins du monde taillent des croupières aux vins français, hein, parfois avec des appellations plus simples, une politique commerciale plus évidente, au moins le rosé, on garde une certaine prééminence en France.
Oui, la France a obtenu une vraie place avec le rosé. Avant, c'était l'Espagne, mais c'est maintenant la France, et très clairement. Ce que je trouve intéressant dans le rosé, c'est le développement dans toutes les régions. Alors, c'est vrai que les Provençaux ont pris une sacrée avance en la matière, mais maintenant, pour des raisons commerciales évidentes, opportunités commerciales, ce marché s'ouvre à toutes les régions. Moi, si vous me demandez, Vincent, où sont mes rosés préférés ?
Oui, parce que on a évidemment beaucoup parlé des Côtes de Provence, qui restent la référence, hein, évidemment, en France et même dans le monde du vin rosé tel qu'il devrait être fait. Mais il y a des initiatives partout et un travail formidable des vignerons dans d'autres vignobles pour faire des rosés d'excellente qualité. Quoi, par exemple, alors ?
Je commencerai. Le Languedoc, c'est plus de rosé que la Provence.
Parce oui,
que
en quantité. Hein. D'ailleurs, la Languedoc est la plus grande. Le Languedoc, c'est la plus grande région viticole française, hein, en termes de production.
De très loin.
Et d'air.
Non, moi, ma préférence pour le rosé, je dis, quelles sont les qualités que je recherche dans un rosé ? C'est la fraîcheur d'abord,
oui,
et le fruité.
Oui.
Et quand je tente une fraîcheur, je vais vers des climats plus frais que la Provence. C'est-à-dire la Savoie, la Bourgogne, la Loire, le Sud-Ouest et Bordeaux.
Oui, la fraîcheur. Quand on dit fraîcheur, ça veut dire à la fois ce côté acidulé et fruité, quoi. C'est-à-dire ce côté gourmand, quoi.
Côté gourmand et peut-être une petite légèreté d'alcool, parce que les gens parfois confondent légèreté de couleur et légèreté d'alcool.
Ah oui, vous avez raison.
Faux, puisque il y a autant de sucre dans un rosé pâle que dans un rosé français.
Et on peut schématiser en disant, grosso modo, plus il y a de soleil, plus il y a d'alcool dans le vin.
Oui, c'est une simplification, mais c'est globalement vrai. Évidemment, il faut que la raisin soit conduit à maturité, mais c'est normal. Vous regardez une étiquette de tout vin du Sud, il va être autour de 14 degrés. Un vin du Nord, du Nord-Est ou du Nord-Ouest va être plutôt à 12 à 13.
D'accord. Et je vais vous demander dans un instant une petite sélection, alors, peut-être de vignobles français, mais on a un auditeur en ligne. C'est Didier qui voulait nous parler d'un rosé, de son rosé de cœur. Bonjour Didier.
Oui, bonjour.
D'où est-ce que vous nous appelez ?
J'appelle de Romainville dans le 93.
Ah,
et
ouais,
moi, j'ai découvert dans un restaurant parisien, en Ile-de-France, un restaurant, une brasserie parisienne, du rosé de cassis. Et c'est introuvable.
Ah oui, alors, parce que le cassis, c'est vraiment du blanc, David Cobold, normalement. Hein.
Alors, on peut faire les trois couleurs à cassis. Même si cassis est dominé, c'est l'exception en Provence, c'est la seule appellation qui produit une majorité de blanc.
Oui, c'est ça.
Mais on peut aussi faire des rouges et des rosés à cassis. Ça existe.
Alors, Didier, qu'est-ce que vous avez aimé dans ce cassis rosé ?
C'est la fraîcheur, c'est un goût vraiment différent des Côtes de Provence habituelles. Il n'y a pas de mots, quoi. Voilà.
Il n'y a pas de mots. Non, mais vous l'exprimez bien. Vous l'exprimez bien. David Cobold, vous qui êtes anglais, hein, de naissance, on reproche souvent au rosé ce goût de bonbon anglais. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est ?
Alors, comme je déteste les bonbons anglais, je suis peut-être pas le mieux classé.
Mais oui, mais justement, un anglais qui n'aime pas les bonbons anglais, ça nous intéresse pour décrire le rosé.
Oui, oui. Mais Vincent, vous savez que j'ai fait mon Brexit il y a 40 ans.
Alors... Oui, je sais bien. Justement. Alors c'est quoi ce goût qui est parfois gênant, ce goût, on dit parfois de bonbons anglais, ou des goûts volatiles, des goûts ou alors même des goûts d'acétone, vous savez.
Oui, c'est ça. Alors pour moi, c'est un défaut. C'est pas une partie de plaisir, c'est des goûts un peu chimique, un peu artificiel,
c'est
que
ça, hein,
personnellement, je n'apprécie pas. Pas plus que les bonbons anglais, d'ailleurs.
Oui, David.
Ce que j'aime, c'est vraiment le fruit, mais le fruit sain, le fruit frit, frais, vif, acidulé un peu, mais pas trop acidulé, c'est-à-dire qui donne une gourmandise, qui donne envie d'un deuxième verre. Et moi, j'ai sélectionné 6 vins, si je puis me permettre.
Oui, allez-y, je vous écoute. On prend des notes, hein. Prenez des notes chez vous. Hein. Voilà.
Alors, on va dans les montagnes, on va en Savoie. Excellent climat pour faire des bons rosés. André-Michel Quenard, le Savoie Rosé 2018. J'ai pris en plus des rosés abordables.
Les Quenards, il y en a beaucoup hein, du côté de la Savoie. Oui,
c'est comme en Bourgogne, il faut noter les prénoms.
André-Michel
Quenard, Savoie Rosé 2018, 6,50 €.
D'accord.
Ensuite, on va remonter un peu en Bourgogne, pas très loin.
Oui.
Le domaine Chevreau, dans la partie sud de la Côte des Beaunes. Mmh. Ils sont au Marange. Et ils produisent un très joli bourgogne rosé qui s'appelle Sakura. Vous savez, Sakura, c'est ces cerisiers japonais.
C'est la fleur du cerisier. Bah oui, c'est la fleur du cerisier, Sakura.
Donc c'est très joli. Il y a cette fleur sur l'étiquette. Ça vaut 11 €. Pour moi, c'est le meilleur rosé que j'ai goûté cette année.
Ah oui, et c'est une appellation Marange?
Non, c'est l'appellation Bourgogne.
Ah, Bourgogne, Bourgogne simple.
Il n'y a pas d'appellation spécifique rosé à Marange. D'accord, c'est un Bourgogne simple.
D'accord, super.
Ensuite, alors, on va passer en Val-de-Loire.
Là, il y a une longue tradition hein, avec les cabernets d'Anjou notamment.
Bah justement, j'ai choisi un rosé d'Anjou, pas un cabernet d'Anjou, donc il n'y a pas de sucre, un rosé d'Anjou. Celui-ci vaut 5 €, c'est fait par une cave coopérative des vignerons des caves de la Loire, et la cuvée s'appelle Les Caprices.
Les Caprices, ok.
Les Caprices,
okay.
5 € seulement.
Et donc, on est toujours autour de 5 à 7 €, là, vous êtes super économique, hein, David, ce matin.
J'essaie, sauf pour le Bourgogne qui quand même émarge à 11 €.
D'accord, d'accord.
On reste en Loire pour une appellation plus connue, Chinon, qui fait du rouge essentiellement.
Ah bah oui, oui, le Cabernet Franc.
Oui, Cabernet Franc, donc issu du le blanc et c'est du chemin, et le rouge et le rosé du Cabernet Franc.
Oh là, vous avez du vent dans les voiles là, ce matin, David.
Oui, bah, je suis devant l'Académie du vin de Paris où je donne un cours et je suis sur
le... Et ça souffle. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre d'ailleurs, au milieu de votre cours.
Donc, Chinon, Pierre et Bertrand Coulet, Chinon Rosé 2018, 8 € seulement.
Magnifique. Génial. Ok, mais et ça nous va très bien. Je pense qu'on a fait un bon petit tour, mon cher David. Je vais vous laisser...
Un petit coup, Vincent, dans le sud-ouest. Il ne faut pas oublier le sud-ouest.
Ok. Allez, ça sera le dernier de la sélection.
La cave de Plémont, le rosé d'enfer.
Ah, bah ça... C'est Saint-Mont, ça. Oui, c'est super. C'est les amis du Gers.
Quand même 7,50 €. Et puis, n'oubliez pas le Bordeaux clairé de Château-Penin à 7 €. Ça, c'est un rosé plus foncé, presque un rouge clair qui va avec tout, les grillades, les viandes pendant l'été. Voilà.
Vous terminez sur le clairé. C'est là que je retrouve votre âme anglaise. Hein, parce que ce sont vraiment les Anglais qui ont mis à la mode le clairé il y a 200 ans. Hein.
Le claret, oui.
Oui, absolument. Merci beaucoup, David Cobold. Je vous rends à vos étudiants et on vous retrouve toute l'année, le samedi et le dimanche, dans In Vino, aux côtés de l'ami Alain Marty, sur Sud Radio.
Merci, Vincent.
Merci. Un bel été à vous et merci pour tous ces tuyaux de rosé. Alain Bassineau, vous entendiez ce que disait David Cobold.
Alors,
c'est vrai qu'il y a du rosé partout. Et pourtant, le gros du marché reste en Côte-de-Provence et notamment dans votre département, le Var, qui en est le cœur. Hein.
C'est ça. Hein. C'est vrai qu'une bouteille sur trois, aujourd'hui, un Cordelaine Provence.
Ouais.
Alors, on a une antériorité. C'est vrai, bon, je crois qu'il faut le dire aussi aujourd'hui avec beaucoup d'humilité. Hein. On est parti de très loin. Le rosé était mal considéré il y a 30 ans. Aujourd'hui, grâce aux efforts qu'on a fait, on a cru avant les autres, avant le rosé, avant les autres, je dirais, dans la 7 couleurs, et aujourd'hui, c'est devenu une vraie référence. Mais bon, ceci dit, c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui, il y a de la concurrence, beaucoup d'autres régions en France aussi. Bon, ben,
et
pas,
dans le monde aussi, hein, parce qu'ils se sont accrochés à ce succès du Côte de Provence.
Tout à fait. Nous, on souhaite concerner notre niveau de gamme, quoi. Et puis voilà. Maintenant,
Alain, qu'est-ce qu'on peut dire sur le fait que les gens veulent des rosés de plus en plus clairs? Est-ce qu'ils veulent du blanc, en fait? Parce qu'on s'aperçoit que la couleur joue énormément dans l'acte d'achat.
C'est vrai, mais vous savez, pour nous les vignerons, c'est pas une obsession, on n'est pas obsédé par la couleur. Mes choix techniques ne vont pas sur la couleur. Moi, l'important, quand je fais du rosé, c'est que j'extrais, et c'est vrai, il faut savoir quand même, par rapport à l'histoire du bonbon anglais tout à l'heure, tous les arômes que vous avez dans le vin rosé proviennent du raisin. Donc ça, c'est important de le dire.
Oui, il n'y a pas d'ajout. Quand on dit des goûts synthétiques, c'est pas ce qu'on ajoute à l'intérieur.
J'aurais aimé le dire.
C'est une façon de mener sa vinification, en fait, qui peut amener un goût à un autre.
L'objectif, c'est d'extraire les saveurs, les arômes, en procédant à une macération douce avec des bons cépages. Après, derrière ça, c'est vrai que si on maîtrise le froid, on obtient une couleur pâle. C'est comme ça.
Bien sûr. Voilà, donc, et c'est ce que les gens veulent maintenant.
Tout, ben oui, écoutez, le consommateur adhère, tant mieux. Après, parce que, chacun,
parce
c'est
que,
vous.
Est-ce que vous pensez que c'est psychologiquement parce que ça donne l'idée d'un vin qui est plus léger, qui est plus gouléant, plus facile, s'il est plus clair?
Je pense que oui. En fin de compte, le consommateur a dégusté des vins pâles et ils ont retrouvé derrière ça des arômes de la fraîcheur, de et de la vivacité. Donc,
et de la légèreté.
Bon rosé et rosé clair. Bon, c'est pas tout à fait juste, effectivement, mais pour autant, c'est vrai que c'est aujourd'hui ce qui fonctionne. Mais nous, je vous dis, au niveau de la vinification, notre obsession, c'est pas la couleur. C'est le goût, c'est les arômes, c'est les saveurs. C'est ce qu'on peut tirer du raisin. Et puis après, si la couleur arrive pâle, ben c'est comme ça. Et puis c'est vrai que c'est joli, nous, on rosé pâle. Maintenant, c'est important qu'il y ait une gamme et que les gens choisissent aussi. Donc ça, on laisse libre cours à chacun de choisir le vin qu'il désire en fonction du plat qu'il a dedans.
À vous entendre, j'ai l'impression que le vin rosé reste vraiment la boisson à la mode et la boisson de l'été qui se prépare. Je crois que les ventes n'ont jamais été aussi bonnes.
Oui, écoutez, ça fonctionne très très bien. Il faut reconnaître qu'il y a une forte demande aujourd'hui, surtout quand il y a des températures importantes. Maintenant,
et vous allez pourvoir, les vignerons vont pourvoir cette année?
Oui.
Là, pas de pénurie de rosé en perspective?
Oui, vous savez, les marchés se régulent automatiquement. Et c'est pareil, là, vous savez, à partir du moment où on a une production, ben, elle s'écoule au courant de l'année, on connaît nos marchés. Et donc, là, je dirais, on a toujours le spectre de la pénurie qu'on fait planer toujours.
Ça fait monter les prix, on le sait aussi.
Ça fait monter les prix, mais il n'y a jamais de pénurie. Et puis, je vous dis, aujourd'hui, bon, c'est vrai, tout le monde fait du rosé, on a le choix. Et on ne manquera pas de rosé cet été, Vincent.
Super. Merci, Alain Bassino, vigneron dans le Var et jeune retraité de la présidence de la Chambre d'agriculture du même département. Je vous souhaite un très bel été à vous et à tous vos confrères vignerons. Je pense qu'il va être dans l'hiver avec de la glace ou pas, hein, mais en tout cas beaucoup de fraîcheur. Bon été à vous, Alain.
Merci,
mes amis,
bon été.
Si vous voulez réagir sur notre émission dans la deuxième heure, nous serons du côté de Cannes et l'arrière-pays cannois. Si vous avez des choses à nous raconter, si vous aimez cette région, si vous la racontez bien, n'hésitez pas à appeler au 0826 300 300 et puis en fin d'émission, si vous nous dites Cannes, eh bien vous gagnerez le guide Michelin du jour, guide Michelin édition 2019. On se retrouve dans un instant pour se plonger dans le sac de plage de Marine Van Tournout et croyez-moi, c'est une expérience.
Sud Radio, les routes de l'été, Vincent Ferniaud.
Si vous disiez
Marine, quand on sera à la plage ensemble, je sentirai ma guitare sèche et je vous chanterai un petit peu de Bossa Nova, un air de Jean Gilberto qui nous a quittés samedi, mais avec des morceaux mais qui sont peut-être les plus grands morceaux de la samba, hein, en tout cas qui sont dans l'inconscient collectif de chacun. C'est aussi l'image du Brésil des années 60 hein, que l'on peut garder en tête. Et évidemment, pour ces routes de l'été, elle va nous accompagner, cette musique de Jean Gilberto, pendant toute l'émission.
Ouais, je me sens inspirée aujourd'hui.
Bah, qu'est-ce que vous voulez, la bossa nova, c'est la bossa nova et ça parle de soleil, ça parle de vacances, même quand ce sont des sujets un peu plus difficiles parfois, hein, parce que je ne parle pas brésilien couramment, hein, je me doute qu'il n'y a pas que ça. Mais en tout cas, Jean Gilberto nous accompagne aujourd'hui. On est très triste et à la fois, c'est cette saudade, c'est peut-être ce côté nostalgique et un bonheur nostalgique aussi de réécouter ces morceaux. Allez, Marine, on va plonger immédiatement dans votre culture d'été parce que vous avez la tête qui fonctionne pendant que nous, on se met juste à désarder au soleil.
Sud Radio, les routes de l'été, mon sac de plage.
Votre sac de plage, qu'y a-t-il aujourd'hui, puisqu'on est dans la région des Alpes-Maritimes?
Eh bien, mon sac des plages et moi, on a décidé de se poser à Juin-les-Pins.
Ah,
je vous donne juste le décor. Une pinède. Juste à côté
déjà,
de la plage.
Juin-les-Pins, c'est une pinède, ça
voilà.
C'est sûr.
Avec vue sur mer,
oui.
Et ben c'est là que va se dérouler Jazz à Juin. Comme son nom l'indique, c'est un festival de jazz. Et mythique, hein, car c'est la 59e édition. Et les plus grands s'y sont succédés, si je vous dis Louis Armstrong, Ray Charles, Duke Ellington, Nina Simone. Ouais, ça donne envie, je sais. Je vois dans vos yeux qui brillent, Vincent. Eh bien, direction les Alpes-Maritimes dès ce vendredi 12 juillet jusqu'au 21 juillet pour découvrir tous les nouveaux et anciens talents du jazz.
En Europe, on peut dire grosso modo en matière de jazz. Alors, bien avant Marcillac dans le Gers, c'est Montreux en Suisse et Juin-les-Pins.
Hein. Tout à fait.
Et on a le directeur du festival, Philippe Baute, qui est avec nous. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Comment allez-vous? Belle journée qui se prépare à Juin-les-Pins, j'imagine, dans les préparatifs.
Encore une belle journée, les touristes arrivent nombreux, c'est toujours notre grand plaisir.
Bien sûr.
Et la Pinède a revêtu son décorum du mois de juillet pour accueillir les artistes que nous avons choisis cette année.
Alors évidemment, un peu en deuil comme nous dans l'émission de Jean Gilberto, hein, qui a fait cette fusion entre le jazz et la samba, hein, avec la bossa nova.
Totalement, ça a été un des précurseurs, justement, un de ceux qui a illuminé notre Pinette Gould.
Et oui.
Parmi les grands artistes brésiliens, c'est vrai que la patte qu'il a amenée a permis de dire qu'il existait aussi un jazz en Amérique du Sud, et ça a été l'un des tout premiers ambassadeurs.
Hein. Et puis ça a été l'initiateur avec Stan Getz du cool jazz, hein. Il faut le dire
tout
aussi. Et donc une branche très importante, hein, du jazz.
Une très importante branche du jazz et justement contribuer à faire que ce jazz, on s'aperçoit que quelle que soit l'origine sur notre petite planète de la musique d'où elle vient, elle arrive toujours à fusionner avec un autre genre musical qui vient d'un autre continent. Donc c'est ça qui est merveilleux.
Alors c'est important, jazz à Juan, parce que dans un univers balnéaire, d'été, un peu bling-bling parfois de la Côte d'Azur ou d'autres destinations, quand on pense par exemple à Ibiza, où alors, c'est vraiment la techno, ça garde ce côté jazzy, qualitatif, cool, à la Côte d'Azur, qui en a besoin.
C'est totalement ça. C'est vrai qu'en période estivale, il y a des images galvaudées qui sont récurrentes, mais avoir l'honneur d'être à la direction d'un festival qui allie à la fois culture, patrimoine, joie de vivre, comme vous dites, simplicité, authenticité, parce que la musique de jazz, s'il y a une musique qui est très authentique et très humaine, c'est celle-là, c'est un vrai bonheur. Et c'est vrai que c'est surtout pas un lieu limité à quelques initiés, mais c'est une programmation également d'ouverture, car
oui.
Cette Pinette Gould, votre concert l'a évoqué, c'est vrai qu'en plus le lieu est absolument unique,
ouais,
unique
c'est
au monde pour jouer de la musique.
C'est splendide et tellement, comme on le disait, à l'encontre de l'image qu'on a parfois de la Côte d'Azur, un petit peu très sautante. Là, c'est un endroit de méditation, un endroit de bonheur, et puis qui sied au jazz merveilleusement. Philippe, juste un mot, donnez-nous quelques highlights de votre programmation de cet été que l'on retrouvera dans le festival.
Écoutez, on ouvrira avec, à mon avis, l'un des trois meilleurs batteurs du monde à l'heure actuelle,
oui.
Qui est Steve Gadd, et qui a enfin décidé de mettre un quartet autour de lui et qui va jouer de la musique de jazz pour... c'est un bon exemple de ce qui se fait de
génial.
Mieux, et ça sera suivi de George Benson. Vous aurez
à la
fille, vous aurez Diana Krall, vous aurez Thomas Dutronc.
J'adore Diana Krall, quelle belle voix, vraiment splendide.
Très belle voix, et qui sera précédée d'un saxophoniste et d'une saxophoniste, parce que le jazz se conjugue de plus en plus au féminin, et on en est ravis. Candy Dulfer, voilà, qui sont des artistes grandissants. Vous aurez une soirée vintage qui me va très bien d'ailleurs vu mon âge, où on rassemblera sur le même plateau Magma et Crimson.
Ah oui.
Donc, les
fils de Christian Bandet.
Eh oui.
Ça ne me rajeunit pas.
Hein. Et Ben Harper. Et,
génial. Formidable. Quelle programmation, dites donc, Philippe Baute. Hein. Vous êtes gâté. Vous allez gâter vos spectateurs.
On n'est pas malheureux. Et puis,
il y a
ceux qui n'ont pas l'opportunité de venir dans la Pinède. Il est très important de dire que le jazz est aussi sur des petites scènes dans notre ville, l'une à Juan-les-Pins et l'autre à Antibes. Des scènes gratuites où on met des jeunes talents en plein développement.
Oui, parce qu'à ce côté, vous êtes à la fois institutionnel du jazz, mais aussi découvreur de talent, et c'est très important à Juan. Voilà.
Je crois que quand on est le doyen des festivals en Europe, on doit être le précurseur en matière d'avenir.
Ça me donne une deuxième raison de venir à Juan-les-Pins. Jusque-là, il y avait la pisse à la dière, mais il y a vraiment le festival de jazz.
On pourrait même manger de la pisse à la dière dans la Pinette.
Bon, on espère. Merci beaucoup, Philippe Baute. Je vous souhaite
Merci
un très beau festival et un bel été en jazz. Voilà. Et bonne journée
bientôt.
À vous. Mes amis, on est bien, on est déjà sur la Côte d'Azur, là, dans les Alpes-Maritimes, autour de Cannes. Et ce matin, comme vous le savez, chaque matin, on aime bien mettre un blogueur, un Instagrammeur, un YouTubeur à l'honneur, parce que nous, l'honneur d'Instagram, eh bien, ça fait partie de notre vie.
Sud Radio, les routes de l'été, les blogueurs à l'honneur.
Et puisqu'on est à Cannes, eh bien, il est normal d'avoir une cannoise en ligne avec nous. C'est Cathy qui nous rejoint. Bonjour Cathy.
Bonjour.
Comment allez-vous? Comment allez-vous? Tout va bien?
Bien.
On est heureux de vous avoir sur notre antenne de Sud Radio avec Make My Cinema. Bah, à Cannes, c'est vrai que c'est presque un passage obligé.
Il fallait ça.
Ça fait combien de temps que vous faites de belles photos, de la promo de votre ville?
Ça fait environ 4-5 ans.
Ouais, génial.
Voilà. Mais enfin, bon, je me suis rodée auparavant sur les bons vieux réseaux comme Facebook. Et puis, petit à petit, j'ai progressé, j'ai grandi pour arriver sur Insta et avoir désormais un blog.
À partir du Festival de Cannes, c'est ça qui vous a donné l'impulsion au départ?
Pas tout à fait, non. Il y a une confusion avec mon pseudo. En fait, mon pseudo Make My Cinema est venu du fait que j'avais envie de faire mon cinéma à ceux qui veulent bien m'écouter et regarder mes posts.
Vous n'êtes pas la seule à faire du cinéma à Cannes, c'est sûr, mais vous vouliez faire le vôtre.
Voilà, je fais le mien.
Absolument. Et alors, quel est en fait lorsqu'on arrive sur votre Instagram, ce sont plutôt des paysages, des vues de la ville, qu'est-ce qui nous saute à l'œil?
Il vous saute un petit peu de tout parce que je suis sur du lifestyle et en fait j'aime partager un peu tout.
Ouais.
Je partage aussi bien des vues, des moments, des restaurants, de la mode, de la beauté.
Vous êtes plutôt adepte de la photo sans commentaire ou vous mettez du texte? Vous aimez bien raconter aussi?
Ah non, je mets du texte. Je mets du texte parce que je suis bavarde, j'aime bien écrire.
Ouais.
Et voilà, ce que je ne peux pas dire sur Instagram, je le dis sur mon blog.
Votre blog, Make My Cinema. Et du coup, est-ce que vous avez des étrangers? Est-ce que vous avez des témoignages de gens du monde entier ou est-ce que c'est très franco-français?
Oui, quand je regarde mes statistiques, j'ai pas mal de Russes, j'ai pas mal d'Américains, j'ai des Anglais. Bon, bien sûr, la majorité, ce sont des Français, mais voilà, ça touche les followers à l'international.
D'accord. Bah, il faut toucher l'international parce qu'il faut donner envie à tous ceux qui sont dans le monde entier de venir dans votre belle ville et surtout de découvrir Cannes. Bah, je dirais par le petit côté de la lorgnette, hein, parce que c'est souvent le festival et le côté strass et paillettes qui nous donne une vision de Cannes qui n'est pas très juste. Hein, il y a une ville tradie, hein, il y a la vraie ville de Cannes.
C'est tout à fait. Il y a à côté du bling-bling et des paillettes de la Croisette, il y a le Suquet qui est le vieux Cannes, Cannes authentique, qui était le village de pêcheurs. Et qui mérite d'être vu parce qu'on y grimpe par une rue Saint-Antoine pour accéder jusqu'à une vue panoramique absolument à 360 sur Cannes.
Ouais.
Il y a un château de la Castre avec un musée à visiter. Il y a une église magnifique.
Ouais.
Et ça, c'est le vrai Cannes. C'est
le Cannes des Cannois, quoi.
Le Cannes des Cannois, le Cannes populaire. C'est devenu maintenant un petit peu le Cannes des restaurants, aussi, il faut dire. Hein. Mais au pied du Suquet, il y a le marché Fourville, qui est l'un des plus beaux
marchés
provençaux.
Oui, très joli marché. Ouais.
Voilà. Les chefs s'y servent en produits frais. D'ailleurs, on l'appelle le ventre de Cannes, ce marché.
Ah oui, bah voilà. oui, comme le ventre de Paris à l'époque, c'est vraiment le grand marché de gros.
Voilà, c'est un marché couvert, c'est vraiment un marché à voir. Voilà.
Bon, merci Cathy. Vous savez quoi? Vous m'avez déjà donné envie de descendre à Cannes, là. Hein, hors saison, comme on dit, hein, pour découvrir le Cannes des Cannois. C'est ce qu'on va faire pendant toute la deuxième partie de cette émission. Jusqu'à midi, on va se balader dans les rues de Cannes. J'espère que vous allez nous écouter, Cathy. Je vous renvoie sur le blog de Cathy, Make My Cinema, pour découvrir le Cannes méconnu. Tout ce qu'on n'aura pas dit dans l'émission entre 11h et midi sur Cannes. Peut-être qu'il y aura 2-3 trucs qui resteront. Vous pourrez certainement les découvrir chez Cathy. On se retrouve en tout cas dans quelques minutes pour plonger dans le Cannes des Cannois. A tout de suite.
Sud Radio, les routes de l'été, Vincent Ferniaud.
Nous continuons violents,
Corcovado, c'est le morceau culte avec Girl from Ipanema de Jean Gilberto, qui nous a quittés samedi. C'est pour ça qu'il nous accompagne pendant toute l'émission. Ouais, j'étais en train d'écouter avec Marine, tranquillement. Et ce morceau, bah, ça parle du, vous savez, de cette montagne, hein, qui est au milieu de la baie de Rio, hein, le Corcovado avec son Christ au sommet. Eh bien, on est dans une autre baie célèbre. On est dans la baie de Cannes aujourd'hui, ma chère Marine. Mm-hmm. On se balade dans le Cannes, non pas connu, reconnu, rebattu des festivals, parce que ce n'est que deux semaines par an, hein. Le reste du temps, c'est le Cannes des Cannois, hein, qui nous intéresse. Et puis l'arrière-pays, on ira tout de suite après se balader dans l'arrière-pays avec de très grands chefs, les producteurs, parce que c'est un monde à part entière, je dirais, ce Cannes et l'arrière-pays cannois. En tout cas, si vous avez envie de réagir, si vous connaissez bien Cannes, si vous aimez Cannes et ses alentours, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour nous en parler. Et si à la fin de l'émission, vous savez qu'on est à Cannes et que vous nous le dites au standard, il y a à gagner un guide Michelin édition 2019. Et croyez-moi, après Paris, c'est normal, et l'Île-de-France où il y a le plus de restaurants étoilés, c'est évidemment la Côte d'Azur, le deuxième site le plus étoilé de France. Incroyable le nombre de restaurants étoilés que l'on trouve, et de bonnes maisons qui ne sont pas étoilées, mais qui ont aussi toutes les faveurs de ce guide. Alors, mes amis, on va tout de suite s'intéresser à quelques plans de derrière les fagots, comme on dit, hein, quelques plans des personnes sur place.
Sud Radio, les routes de l'été, vos meilleurs plans.
Je sais que vous écoutez l'émission nombreux pour préparer vos vacances et pour connaître d'ores et déjà quels sont les meilleurs endroits, les petites adresses, les petites visites à faire. Et c'est pour ça que nous avons téléphoné à Laure Thomas, qui est directrice du tourisme et des loisirs à Cannes. Bonjour Laure.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio et merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de cette ville que nous aimons. On avait à l'instant Cathy au téléphone juste avant le journal qui nous parlait de son blog Make My Cinema où elle parle du Cannes des Cannois. C'est très important, hein, dans l'image de la ville de garder ce côté tradit, ce côté authentique.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est pas seulement le tapis rouge, les strass et les paillettes. On a la chance à Cannes depuis 2 ans d'avoir mis en place un service avec des greeters. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que sont les greeters. Ce sont des locaux.
To greet, c'est accueillir en quelque sorte.
Et voilà, c'est ça. Et c'est bien accueillir surtout. Donc, on a une 13 greeters, donc que des Cannois passionnés par leur destination qui vont justement vous montrer. Alors, je ne sais pas si c'est derrière les fagots, comme vous le disiez, mais c'est plutôt un Cannes derrière les coulisses.
Exact.
Là, vous allez vraiment avoir
ou derrière la croisette,
de...
hein, géographiquement, oui. On peut dire au fond. C'est dès qu'on est dans l'arrière-pays, ouais. À l'intérieur de la ville.
C'est ça, et plus haut que la croisette, parce qu'on a deux quartiers, que ce soit la Croix des Gardes, qui est vraiment un superbe vallon plein de mimosas en hiver, mais l'été, vous pouvez faire des jogging. Ouais. On a le quartier de la Californie sublime, avec les maisons et les châteaux de l'époque.
Je connais bien, parce que j'avoue que j'avais un ami qui avait un appartement, dont les parents avaient un appartement quand j'étais jeune, dans cet immeuble, le Californie, c'est-à-dire en hauteur. Et donc, beaucoup venu dans ce coin-là, qui est très fleuri, hein, beaucoup de lauriers roses, beaucoup de fleurs.
Surtout que vous avez une vue panoramique une vue panoramique sur Cannes extraordinaire. On voit vraiment de l'Italie jusqu'à Saint-Tropez. Mais surtout, on a des îles. Parce qu'effectivement, à Cannes, il n'y a pas que la croisette.
Et
on
non.
a deux sublimes îles, les îles de l'Érins. Et là, il y a plein de choses à découvrir.
Ah, bah écoutez, moi, j'ai eu la joie de faire une émission l'été en France à Sainte-Marguerite. Et c'est un endroit extraordinaire. Vous pouvez nous raconter un petit peu cette petite île?
Alors oui, bien sûr, on peut y accéder. Alors, ce qui est très facile quand vous êtes à Cannes, soit en excursion, soit en séjour, il suffit de 15 minutes pour aller sur Sainte-Marguerite, qui est l'île la plus grande.
Oui.
Et puis surtout, c'est l'occasion de deux choses. De voir déjà, de toucher du doigt la célèbre légende du masque de fer. C'est là où il y a la célèbre prison, donc on peut la visiter. Cette année, il y a une superbe exposition jusqu'à la fin octobre.
Ah,
où
formidable.
On voit quelles seraient les hypothèses, mais qui serait donc caché derrière le célèbre masque de faire. Et puis surtout, pour ceux qui voudraient allier culture et farniente, on a les plus beaux lagons de la Côte d'Azur, parce qu'entre les deux îles, justement, celle de Sainte-Marguerite et de Saint-Honorat, l'eau est totalement bleu lagon.
Ah oui,
donc
c'est
fantastique.
C'est extraordinaire. Ah, oui. D'ailleurs, les Cannois ne s'y trompent pas. Il y en a qui ont la chance d'avoir une petite résidence, un petit cabanon sur l'île de Sainte-Marguerite.
Ce sont surtout les pêcheurs qui se transmettent de père en fils. Alors, sinon, vous pouvez y aller à la journée. Et puis en face, il y a Saint-Honorat. Alors là, c'est le sublime havre de paix, parce que vous avez des moines cisterciens qui vivent là, et le vous pouvez, quand vous êtes touriste, voilà, y aller pour voir une messe, ou pour aller balader sur l'île et visiter le monastère fortifié, qui est une pure merveille, parce que c'est calme, parce qu'il n'y a pas de bruit, parce que ça sent bon, parce qu'il n'y a que des oiseaux et des champs et des vignes, parce que bien sûr ils font du vin, un vin qui est très bon et que vous pouvez déguster entre ciel et mer. Donc c'est vraiment quand même à quelques encablures de Cannes.
Ça nous cause, hein.
Oui, ça vous cause, entre le lagon, le verre de très bon rouge ou blanc.
L'eau turquoise et le vin rosé, ça fonctionne bien ensemble dans un camailleux très spécial. Mais qui
c'est pas la peine d'aller
preuves.
Très loin en vacances, exactement. À Cannes, vous pouvez aussi trouver tout ça.
D'autant que, moi je n'ai cesse de le répéter, la vision de Cannes pour l'ensemble des Français et dans le monde entier, c'est souvent ces deux semaines du festival, et on a l'impression que la vie s'arrête après pendant tout le reste de l'année. Mais, et notamment en été, évidemment, il y a beaucoup d'animation hein, pour les vacanciers.
Oui, on a énormément d'expositions. Là, on met à l'honneur Niki de Saint-Phal sur deux lieux, à la Malmaison,
c'est très coloré,
à la Villa
pour ceux qui ne connaissent pas. C'est très coloré, très, très joyeux comme art.
Oui, à la fin, et même un peu enfantin et naïf. Donc, en tout cas, le cas, ça se prête vraiment à un large public. Mmh. On a aussi un musée éphémère du cinéma. C'est l'opportunité pour l'ensemble des visiteurs de rentrer dans le Palais des Festivals, célèbre, bien sûr, pour son festival du film.
Ah, voilà. Et là, ça sera plus facile d'y rentrer que pendant le mois de mai.
Oui. Et là, on a toute une mise à l'honneur de Sergio Leone sur notre musée éphémère du cinéma avec toutes ses œuvres, tout ce qu'il est possible de voir et de toucher du doigt là aussi. Et puis, ne pas oublier la nuit, parce que là, on parle des expositions de jour, mais Cannes est une ville très festive la nuit, et on a aussi des choses totalement nouvelles comme le bal des fous, enfin, ça fait maintenant un certain nombre d'années, mais sur le toit du palais, on a des soirées déguisées où là, c'est l'opportunité de faire la fête de 17h à minuit. Donc tous ensemble, avec vraiment la musique des DJ, au-delà de la mer et des îles de l'Érins, 8 dates en plein été pour faire la fête dans un climat très bon enfant, puisque c'est à l'extérieur.
Bah oui, on y va encore un peu pour faire la fête à Cannes. Hein.
Ah oui, quand même.
Hein, la fête, ça a un sens dans cette ville. Mais et pour le côté un peu cannois, Laure, je vous demande presque personnellement, si on veut aller un peu trouver des petits restos, justement qu'on ne soit pas en bord de croisette, quoi, en bord de mer, dans les palaces, les petits restos, c'est dans quel coin? C'est derrière la rue d'Antibes? C'est dans le quartier de la gare? Où est-ce qu'on va?
Alors c'est au-dessus, c'est au Suquet. En fait, il vous suffit de monter vraiment. Donc c'est le quartier traditionnel provençal piétonnier. Alors là vraiment, vous êtes en pleine Provence. Vous avez les marchés, vous pouvez déguster de la soca. Donc là, vous avez tout un florilège de différents bars, restaurants, et vous arrêtez parce que comme c'est piétonnier, où vous le souhaitez, puis vous montez jusqu'en haut de la Castre. Et là, vous avez encore une vue superbe et vous pouvez prendre un verre de rosé, des spécialités au pistou. Vous avez toutes les spécialités du Sud. Et c'est
j'ai un bon slogan, c'est allez-vous en suquer au suquet. Voilà.
C'est sympa, oui, pourquoi pas. En plein après-midi. Ouais, non,
toujours avec modération, hein, le rosé quand même, même si c'est la boisson de nos vacances, on l'a découvert dans la première partie de cette émission. Merci beaucoup, Laure Thomas, vous êtes directrice du tourisme et des loisirs à Cannes. Et ça nous donne envie, et ça tombe bien parce que c'est quand même le but de l'émission. Je vous souhaite un très bel été avec vos visiteurs.
Oui, vous aussi, venez à Cannes, à bientôt.
C'est noté. Allez, on va continuer, mais on va un peu reculer, prendre encore un peu de distance avec le bord de plage et s'occuper un peu des beaux produits, on adore ça.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio, les routes de l'été, un trésor du terroir.
Alors, lorsqu'on parle arrière-pays cannois, on parle évidemment de maraîchage et de beaux légumes. C'est ce qu'on cherche aussi hein, sur les tables de la Côte d'Azur en cette saison. Et j'ai avec moi en ligne un maraîcher connu de la région, Jean-Charles Orceau. Bonjour Jean-Charles.
Oui, bonjour Vincent.
Comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Alors, écoutez, merveilleux, je préférerais être chez vous qu'enfermé ce matin, mais je voyage par le téléphone et je voyage par la pensée et par les parfums qui vont pas tarder à venir me chatouiller les narines avec les chefs qu'on aura. Mais Jean-Charles, je voulais vous présenter à ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes certes maraîcher et maraîcher historique de la Côte d'Azur, mais vous êtes aussi un ancien célèbre rugbyman de notre 15 de France. Hein, dans les années 80, vous avez été deuxième et troisième ligne. D'ailleurs, si je me souviens bien, hein, et cannois, et avant tout cannois.
Oui, je suis né à Cannes. Je suis fils d'agriculteur installé à Cannes déjà. Et par accident, j'ai rencontré le rugby en même temps que l'agriculture. Donc,
oui, surtout qu'à l'époque, Toulon n'en est pas là où elle est maintenant. Et donc, le Sud-Est s'occupait pas beaucoup de rugby. Hein. Donc, vous avez été un peu un précurseur.
Non, pas précurseur, parce qu'il y a déjà eu des générations dans les années 70, surtout à Toulon, mais en tout cas à Nice, on a eu quelques belles générations aussi.
Ouais. Alors Jean-Charles, vous êtes un géant avec des doigts de fée. J'aime bien ce côté deuxième ligne, avec les mains délicates pour ces fleurs de courgettes. C'est votre passion, hein, le maraîchage et le maraîchage de ces beaux légumes de la Côte d'Azur.
Donc on a la chance d'être dans un terroir et une région magnifique par son climat et toutes les qualités. On a de l'eau, on a tout ce qu'il faut. On a en plus une région avec une clientèle, un marché de gens qui veulent des beaux produits, qui veulent des produits raffinés. Donc on exploite ça et c'est vrai qu'au fil des années, on s'est un peu spécialisé, même si on a d'autres productions, sur la fleur de courgette énormément, oui.
Ah, la fleur de courgette. Il faut dire que c'est l'emblème, selon moi, hein, c'est l'emblème du maraîchage de la Côte d'Azur. La fleur de courgette, c'est ce qu'il y a de plus délicat, au fond, non ?
Oui, c'est très délicat. Ça nécessite un travail de proximité, un travail de fraîcheur. Et puis, c'est effectivement le produit symbole de la cuisine niçoise. C'est la cuisine niçoise qui est vraiment la cuisine de la région. Elle devait avoir un produit phare. Ce serait vraiment la fleur qui se différencie de toutes les autres régions.
Alors, il faut schématiser, mais la fleur de courgette, elle pousse, enfin, disons qu'elle fleurit aussi bien sur des pieds mâles que sur la femelle. Alors, quand il y a une courgette, c'est une fleur femelle, on peut dire, et quand c'est une tige, c'est une fleur mâle, on peut schématiser comme ça ?
C'est effectivement différencié, les sexes chez la courgette, par contre c'est sur le même pied, c'est-à-dire c'est sur le même pied, des fleurs mâles et des fleurs femelles qui portent le fruit, donc qui sont au bout de la courgette.
Et les deux se vendent, ou est-ce que les cuisiniers, qu'ils soient amateurs ou professionnels, privilégient plutôt la femelle, c'est-à-dire avec sa petite courgette accrochée ?
On va dire que la fleur toute seule, c'est le produit basique, je dirais, mais basique en termes, ça n'enlève rien de sa noblesse, mais c'est le produit qui peut se cuisiner en beignet, que chacun chez lui peut mettre dans une pâte à beignet et frire et prendre à l'apéro avec ce qu'il veut. Par contre, la courgette fleur, donc la fleur femelle avec la petite courgette, c'est plutôt un produit de gastronomie, c'est un produit que Roger Verger et Jacques Maximin ont lancé il y a déjà des décennies.
Oui,
j'ai eu la chance de côtoyer ces deux messieurs, donc c'est un peu ces gens-là qui nous ont orientés dans cette production-là.
Bah, tout à l'heure, on aura en ligne avec nous Jacques Chibois de la Bastide Saint-Antoine à Grasse, qui a été d'ailleurs, qui a travaillé avec Roger Verger, qui a été le grand promoteur de la cuisine de la Côte d'Azur.
Et qui a été aussi un chef cannois, parce qu'il a travaillé au Royal Grey à Cannes.
Absolument,
vous
absolument.
Vous avez côtoyé à ce moment-là.
Absolument. Alors, Jean-Charles Orso, vous avez différentes, j'imagine, variétés de courgettes, parce qu'il y a la fleur d'une part, mais par exemple, il y a une courgette magnifique qu'on appelle la courgette violon ou trompette. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ?
C'est une courgette qui a une finesse de chair inégalée.
Et une fermeté aussi, hein, incroyable.
Fermeté aussi, et surtout une finesse de chair. Une de chair, c'est vraiment un produit qui est idéal pour manger en carpaccio, tranché très fin avec simplement un peu de poivre, citron et huile d'olive.
Il y a Marine qui fait
Il ressort des arômes de noisettes, des goûts vraiment surprenants pour la courgette, mais qui sont vraiment très, très riches.
Et pour une courgette qui peut se manger crue, elles peuvent toutes se manger crues, mais on l'oublie trop souvent. Hein. On les cuit toujours, alors que crue, c'est délicieux en salade, la courgette, quand elle est de cette qualité.
Oui, mais enfin, il faut que la courgette soit vraiment d'une qualité appropriée. Sincèrement, les courgettes françaises ne sont pas très appropriées pour ça. Il faut qu'elles soient ramassées très jeunes. Et puis surtout, la fraîcheur est essentielle. Quoi.
Et vive la trompette pour ça. Et je signale aussi, il faut que je vous quitte malheureusement, parce que nous devons continuer notre cheminement, mais que vous avez aussi une collection de tomates dans votre exploitation qui est absolument reconnue sur la côte et très très demandée par les chefs justement dont on parlait. Hein.
Oui, on arrive, ça fait 10 ans qu'on est en culture bio, qu'on travaille vraiment sur de l'organique à fond et on avait déjà des produits qui étaient globalement de qualité, mais aujourd'hui on a le sentiment qu'on arrive à avoir une reconnaissance particulièrement des chefs.
Merci Jean-Charles Orsault, ancien rugbyman, aussi grand maraîcher qu'il a été rugbyman, voilà, et par la taille également. Hein. Bonne journée à vous et un très bel été avec nos tables cannoises et niçoises, voilà, dans la région de la Côte d'Azur. Bonne journée à vous. Allez, on va se retrouver dans un instant. Si vous voulez nous appeler au 0826 300 300 pour raconter l'arrière-pays niçois, l'arrière-pays cannois, les alentours des Alpes-Maritimes, même montant et un peu dans les Alpes, nous, ça nous va, on est dans la région et on aime ça. Dans un instant, on va se retrouver parce que on va enfin, Marine, cuisiner un petit peu, déguster. Alors, déguster par le téléphone, mais déguster quand même parce que vous savez, le pouvoir d'évocation des chefs, ils savent faire.
Sud Radio, les routes de l'été, Vincent Ferniaud.
Alors, on continue dans la samba ?
Ah bah oui.
Oui, mes amis, parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu triste. On l'a dit depuis le début de l'émission du décès de Jean Gilberto qui nous a quittés samedi dernier. Alors, comme ce sont des musiques d'été aussi, ma chère Marine, on s'est dit que pour les routes de l'été aujourd'hui, ça serait des routes brésiliennes, un petit peu. Même si on est dans les Alpes-Maritimes du côté de Cannes. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Voilà, c'est une musique de soleil, une musique de vacances, musique de mer, hein, du côté d'Ipanema.
C'est muy caliente.
Ouais, je suis pas sûr que ça soit du brésilien. C'est bien, pas bon. Je prends quand même. Très chaud. Ok. Mes amis, nous sommes en balade dans l'arrière-pays cannois et on va immédiatement s'intéresser à la cuisine. J'allais dire enfin. Parce que depuis le début, là, voilà, on sent que c'est sous-jacent, hein, cette cuisine azuréenne, cette cuisine de Cannes, aussi du comté de Nice, comme on disait jadis. Et elle est utilisée et chaque jour exécuté par une noria de chefs. C'est incroyable le nombre de chefs étoilés qu'il y a sur la côte. Et moi, j'en ai choisi un parce qu'il n'est pas natif du coin, il en est tombé amoureux.
Sud Radio, les routes de l'été. C'est qui le chef ?
Ah, c'est qui le chef aujourd'hui ? C'est un chef qui officie à Grasse. Grasse, c'est la ville des parfums. On en parlera tout à l'heure avec Stéphane Zeremeta, notre petit futé. Et Grasse, c'est aussi la ville de la Bastide Saint-Antoine où le chef est à l'œuvre ce matin. C'est Jacques Chibois. Bonjour Jacques.
Bonjour Vincent.
Comment ça va à Grasse ce matin ? Ça sent bon, j'imagine, déjà.
Très bien, il fait beau. On est sous les oliviers. Je dirais toute cette senteur, et puis on a cette mer en face, mais on a quand même en face de nous aussi une mer verte.
Ah oui, ça c'est sûr.
C'est la nature.
Ah oui, cette mer verte, cette oliveraie.
Le plus beau tableau du monde.
Alors Jacques Chibois, il n'est pas cannois de naissance, Jacques Chibois il est limousin, mais il est tombé amoureux après son tour de France, après avoir travaillé justement avec Roger Verger, qui a été le grand chef de l'après-guerre et des années 60 dans cet arrière-pays cannois.
Oui, il avait fait un livre qui s'appelait « La cuisine du soleil ».
Eh oui.
Et c'est vrai que ce soleil nous transforme.
Mais Jacques, ça, vous êtes tombé dedans à cette occasion. Enfin, c'est comme ça que vous êtes tombé amoureux du pays, vous.
Ah oui, et puis après avec Outhier aussi.
Ah, Louis Outhier, effectivement.
Voilà. Et donc, après, je suis définitivement venu à Cannes.
Au gré d'Albion.
Hein. Mm-hmm. C'était une belle histoire. Et puis après, on a cassé la tirelire pour monter sa maison, comme on a rêvé de nos maîtres qui nous ont donné cette passion de monter son entreprise et tout particulièrement son restaurant, son hôtel, tout cet environnement qui fait le chef, qui fait les produits, qui fait le terroir, qui fait cette cuisine, je dirais, très personnalisée où on reconnaît la signature du chef parce qu'il est dans cet endroit.
Bien sûr. Alors Jacques Chibois, votre Bastide Saint-Antoine, elle est installée au milieu des oliviers, dans une oliveraie qui est un havre de paix. Dès qu'on quitte un peu la folie et la fureur de Cannes, surtout le soir, on monte et on peut prendre un moment tranquille dans le silence, dans le chant des cigales. Et alors, il y a justement, Jacques, et c'est là-dessus que je voulais vous faire intervenir, un menu chez vous qui est à 69 euros, qui s'appelle le menu de l'oliveraie. Qui est un menu qui est servi toute la semaine, et c'est un peu le la signature du, c'est un peu la signature du lieu. Je vais en donner lecture et puis après on va détailler un petit peu les plats. Fleur de courgette violon, on en parlait avec Jean-Charles Orso à l'instant, du pays, garni d'une brandade, jus de bouillabaisse à l'huile d'olive, risotto d'épeautre, crevettes et calmar sur son mousseux de crustacés au safran. Ça c'est juste une entrée en matière. Les asperges vertes croquantes recouvertes d'une hollandaise citronnée, jeunes pousses herbacées en fraîcheur. Ça c'est bien pour pousser le premier. Les œufs de caille pochés surmontés deux de saumon sauvage réservés à l'aioli, coulis à l'oseille. Le Saint-Pierre aux artichauts, passion, condiments à la riquette craquante et jeunes oignons rouges caramélisés. Jus de feuilles d'artichaut à l'huile d'olive. Le pagre au fenouil rôti et craquant, sauce vierge basilic. Le filet mignon de porc, tomate confite en plusieurs couleurs, etc., etc. Quand on a commencé, on met le nez dedans, on n'en ressort pas facilement. C'est un peu votre cuisine qui est de fusion entre vos origines et puis le pays.
Oui, et je suis tombé dedans, tu vous l'avais dit, justement, pourquoi ? Parce que tout ce que j'ai trouvé comme produit ici, et tout particulièrement, je dirais, ces légumes phares, ces herbes, c'est tout ça, pour moi, ça a été de l'exotisme. Et donc, l'exotisme, ça m'a déclenché beaucoup d'idées, et on a transformé, cette cuisine qui était très locale, avec un peu plus contemporain, et les paysans du coin me disaient, mais comment ça se fait que ce soit un étranger de la région qui nous apprenne à goûter des produits complètement différents.
Mais Jacques Chibois,
de la glace à l'huile d'olive.
Je rappelle aussi que Jacques Maximin, qui a été aussi un promoteur extraordinaire, Jacques Maximin, il est natif du Pas-de-Calais, hein, et tout le monde pense que c'est un gars de la Côte d'Azur, hein.
Bien sûr, on est tellement imprégné que on passe. D'abord, on a plus de temps maintenant passé sur la Côte d'Azur.
Et bien sûr, que dans vos régions d'origine. Voilà. Alors, je voudrais m'attacher à un plat, le pagre au fenouil rôti et craquant, sauce vierge basilic. Voilà un truc qui est extrêmement symptomatique de la région. D'abord, le pagre, c'est une dorade, hein, pagre. Hein.
Le pagre, oui, c'est une dorade.
Oui.
Et après, il y a le quand il grossit, on l'appelle le denti.
Ah, le denti, comme en Corse.
Voilà, quand il grossit, hein. Quand il grossit, alors c'est très local, et là c'est fabuleux. Et quand il est plus petit, on l'appelle le pagre. Et aussi, il y a l'autre famille qui est très très bon aussi, c'est le pajot.
Ah ben oui, bien sûr.
Et donc là, on est vraiment dans le local. Hein.
Et alors, cette sauce vierge, la particularité, pour en terminer, tout le monde peut la faire chez soi parce qu'on utilise des tomates et des ingrédients qui ne sont pas cuits. C'est pour ça qu'on la dit vierge.
Oui, hein, voilà, et bien entendu, et qu'on met de l'huile.
Oui, de l'huile d'olive dedans. Vierge. Et c'est donc sur un poisson chaud grillé ou rôti, c'est
voilà,
merveilleux.
On le cuit sur du fenouil sec et on le sert avec du fenouil également, émincé, légèrement fondu, qui se marie exactement très bien. Et c'est un plat très frais, très, très parfumé et en même temps très goûteux, parce que on aime que ce soit goûteux, la cuisine du soleil. C'est beaucoup de goût et dans sa simplicité et légèreté. Et c'est une cuisine très saine et très facile à digérer parce que il fait chaud.
Et à midi,
on travaille beaucoup, on est toujours complet. Pourquoi ? On a une grande, terrasse ombragée. Et les
c'est
gens
très utile dans la région. Jacques,
c'est pour ça que les menus.
Jacques, il faut que je vous laisse parce que le temps court et on doit encore continuer nos routes de l'été. On a fait une petite étape à Grasse et juste après la pause, on va se retrouver avec Stéphane Zeremeta, notre petit futé, pour parler Grasse, mais côté parfum plutôt. Merci Jacques Chibois d'avoir été avec nous, vous avez donné sacrément envie. Gardez-moi une table, mais je peux pas vous dire quand, ok ? Bon, on se rappelle.
Je vous attends.
Ok, merci, bonne journée à Grasse, on se retrouve dans un instant.
Sud Radio. Les routes de l'été, les meilleurs plans du petit futé.
Et voilà Stéphane, notre petit futé qui arrive. Bonjour Stéphane.
Bonjour Vincent.
Alors pour ce lundi, on démarre dans un lieu vraiment de vacances, hein, la Côte d'Azur, Alpes-Maritimes.
C'est un bon début là.
Mais il y a quand même un truc qui me chagrine un peu, c'est que souvent lorsqu'on parle des Alpes-Maritimes notamment, on pense à la côte, hein, on pense vraiment au littoral et on oublie tout l'arrière-pays.
Et parfois c'est plus calme justement.
Et qui est merveilleux en plus. Hein, je veux dire, notamment l'arrière-pays cannois, hein, lorsqu'on est au-dessus de Cannes, parce que je crois que vous allez nous emmener au-dessus de Cannes.
Alors, je vais vous amener sur la route des parfumeurs. On va être à Grasse. On est à 17 km de Cannes. Hein, c'est vraiment pas très loin. Mmh. Et on est vraiment perché à flanc de colline. On a une belle vue. On surplombe la Méditerranée d'une certaine façon. La vieille ville est jolie. Il y a des petites ruelles ombragées, des petites maisons médiévales. Les façades sont colorées. Il y a aussi des hôtels particuliers, hein, ça date de la période de la Belle Époque. En fait, c'est vraiment une ville qui est vraiment agréable pour flâner, boire un verre, être un peu à la terrasse d'un arbre, tranquille. C'est pas la Côte d'Azur un peu survoltée, c'est vraiment très bien. Et puis, il faut savoir que à partir du XVIIe siècle, Grasse est reconnue capitale mondiale tout de même, hein, pas seulement française, du parfum. Et c'est à peu près la moitié de la production française en parfumerie.
On est beaucoup à avoir lu Le Parfum de Suskind, hein, qui nous a familiarisé avec cette idée. D'où ça vient, en fait, ce décret de ville mondiale, enfin, capitale du parfum? Alors,
la capitale mondiale, c'est venu plus tard. Mais en fait, le début du parfum, c'est au Moyen-Âge, la ville était spécialisée dans le cuir. Donc, ça ne devait pas sentir si bon que ça.
Non, c'était pas du tout pareil. Là.
Les peaux étaient tannées, et puis après, elles étaient exportées beaucoup en Italie. Et il y a eu un artisan qui a eu une idée de dire, on va faire les premiers gants en cuir parfumé. D'accord. Il a lancé donc la mode des gantiers parfumeur. Et ça a eu un succès incroyable, on dirait que ça a buzzé complètement aujourd'hui. Et en fait, l'industrie du cuir a complètement décliné et l'industrie du parfum lui a succédé naturellement, grâce à cet artisan qui
grâce.
A fait...
grâce à cet artisan, bien sûr.
Alors aujourd'hui, on a des crèmes, des savons, les eaux parfumées, tout ça, vraiment ça a été beaucoup plus classique. Alors, les senteurs, c'est la lavande, la myrte, le jasmin, la rose.
Bah, dites donc, la rose quand même, parce que c'est aussi un lieu de culture. Hein,
On cultive
les fleurs qui étaient évidemment la matière première de tous ces parfums. Hein.
Ah ben, c'est cultivé vraiment sur place. Et on a tous ces savoir-faire qui sont transmis depuis des générations. Aujourd'hui, c'est quand même 3500 personnes qui, à Grasse, vivent du parfum, en fait.
Ah oui, dans l'industrie du parfum, à Grasse, il y a 3500 personnes.
C'est beaucoup de monde,
ça. Sont employés par ça.
Mais il faut dire, il y a aussi les grosses maisons de parfum. Il y a la parfumerie Gallimard,
par exemple.
1747, création. C'était une des premières, en fait, une des plus prestigieuses. Il fournissait Louis XV en crème, donc il continue.
Oui, parce qu'on pense Gallimard, on pense bouquin, oui. Mais c'est d'abord un grand parfumeur.
C'est un parfumeur, voilà. Un autre qui va faire un contresens potentiellement, c'est la maison Fragonard.
Ah bah Fragonard.
Alors, ouais. C'est inspiré, donc ça a été créé par Eugène Fuchs, et il voulait rendre à un peintre qui vient de la ville de Grasse, le fameux Jean-Honoré Fragonard.
Oui, hein, c'est ça. Un très joli peintre, absolument, de très belles toiles. Vous dites Fuchs, c'est pas Fuchs? Vous prononcez bizarrement.
Oui, pardon.
Non, mais parce que vous êtes d'origine polonaise, ça m'étonne que vous bouffiez ce nom de l'Est. Là. ce Fuchs, je ne sais pas comment vous avez dit. Et alors, pour découvrir ce monde de parfums, il y a des visites organisées. Alors
justement,
un parcours.
Que ce soit chez Gallimard, chez Fragonard, tous les jours, il y a des visites. On va pouvoir voir les ateliers qui sont en Grasse. Donc, on va vous présenter comme ça la matière première, un peu tous les secrets des nez, tout ça. On va comprendre un peu l'histoire de comment ça se fait un parfum. Et alors, il y a des choses assez amusantes. Par exemple, chez Gallimard, il y a un atelier de création pour concevoir son propre parfum sur mesure.
Ah oui, il y a un petit kit, quoi. Enfin,
vous apprendre.
Atelier, quoi. Oui, c'est un petit masterclass.
C'est sympa. En tout cas, c'est une expérience assez insolite. Et il y a une autre visite à faire, c'est le Musée international de la parfumerie. Il vaut le détour. On a les jardins du musée qui sont absolument magnifiques. Un vieux canal, des bassins, de la lavande, du jasmin. Là, vraiment, le tout est un condensé de plantes qui sont, comme vous le disiez, qui sont produits pour la parfumerie. C'est pas importé.
J'adore Grasse et je trouve qu'à côté de ce monde un peu de bling-bling et de strass qui est le bord de la Côte d'Azur et notamment Cannes qui est à portée de voix, c'est un lieu de repos.
Il n'y a pas de tapis rouge, on est là au calme.
Et puis ça sent bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Moi je suis un nez, moi, de toute façon j'adore. Si ça sent bon, c'est déjà gagné. Puis il y a un truc extraordinaire, là on est en juillet, mais il me semble que début août on a la fête du jasmin.
Alors ce sera le premier week-end d'août, voilà.
Ah bah voilà, c'est ça.
En fait, ça marque le début des cueillettes. fête. Et donc, partout dans la rue, on va célébrer la petite fleur blanche. Il y a des parades, il y a des feux d'artifice, des animations. Alors, en fait, tous les jours, pendant 2 mois, on va avoir des cueilleurs qui vont se retrouver dans les champs. Ça commence très tôt. Hein. C'est à 5h du matin qu'on commence à faire la cueillette des fleurs de jasmin. C'est vraiment le plus puissant. Et ils font ça pendant 2 heures et de façon très, très délicate. Vous n'êtes pas là à arracher ça comme
évidemment,
ça.
Évidemment.
2 heures pour faire 1 kilo. À peu près.
Ouais, il y a de la main d'œuvre, quoi.
Il faut quand même pas mal bosser. Et alors, ça va être travaillé à l'usine le jour même. C'est très odorant, c'est un régal pour le nez. En tout cas, c'est une belle découverte, cette ville de Grasse.
Je peux vous faire une confidence ? Mais vous le dites à personne ? J'ai un savon au jasmin, j'adore ça. Si vous voulez me faire un cadeau, n'hésitez pas. Merci Stéphane, des petits futés. Et on se retrouve demain, vous nous avez embaumés.
À demain.
Sud Radio, les routes de l'été, Vincent Ferniaud.
Oui, la cueillette du jasmin, c'est pas vraiment du sport. Et nous, on aime bien le matin faire du sport sur les routes de l'été. Et ce matin, puisqu'on est dans la région de Cannes, eh bien, on s'est intéressé à un sport nouveau. Je vais vous dire franchement, avant la préparation de l'émission, je n'en avais jamais entendu parler.
Sud Radio, les routes de l'été, ça, c'est du sport.
Marine, si je vous dis du flyboard, ça vous dit quelque chose, vous ?
Ah bah oui, oui.
Ah oui, d'accord. Comme on m'a renvoyé dans les 22, là.
Activité nautique, c'est le sport qui nous élève un peu dans les airs, qui nous permet
de virevolter sur l'eau. Parce que fly, ça veut dire voler, et board, c'est une planche. Donc vous dites c'est une planche qui vole, mais je suis sûr que vous ne connaissez pas mieux que moi.
En tête, en tout cas, je le visualise.
Ok, bah écoutez, on va appeler Romain Cordaro, qui est le gérant du club Gliss Paradise à Saint-Laurent-du-Var. Bonjour Romain.
Salut tout le monde.
Comment Bonjour. Ça va, Romain ?
Alors,
bon, je suis un peu nul sur ce coup-là, je suis désolé. Je ne connaissais pas le flyboard, mais c'est quand même un sport nouveau, rassurez-moi, j'ai pas l'air si vieux que ça.
Non, c'est vraiment un sport d'eau, où on passe vraiment toute l'activité aux 300 mètres, et c'est vraiment accessible à tout le monde.
Ah, dans la bande des 300 mètres, la fameuse bande.
Voilà, hors de la bande, interdiction de pratiquer dans la bande.
Ah oui, d'accord. Alors, décrivez-moi, pour ceux qui ne connaissent pas le flyboard, parce que je ne suis pas le seul, à mon avis, de quoi il s'agit exactement ? C'est une émanation du ski nautique ou ça n'a rien à voir ?
Ça n'a strictement rien à voir. En fait, tout simplement, c'est donc Frankie Zapata qui est le créateur. C'est un ancien coureur de jet ski s'est servi de son expérience en jet ski pour essayer de rattacher un tube à son jet ski, voyant la puissance que ça pouvait dégager à l'arrière, et en récupérant tout ce flux d'eau pour essayer de le canaliser dans une board, donc dans une planche tout simplement qu'il a conçue, qui devient le flyboard juste derrière.
Et c'est-à-dire que par la puissance de l'eau, ça élève la planche, c'est ça ?
Voilà, il y a à peu près 400 kilos de poussée à l'arrière d'un jet ski.
Ah oui, donc voilà. On peut être à plusieurs dessus, alors.
On pourrait. Bon, ouais, c'est pas légal et c'est pas fait pour ça, mais en fait, tout simplement, on supprime la direction et la totalité des jets d'eau d'un jet ski.
Oui.
On vient le canaliser dans un tuyau et toute la puissance en fait, du jet ski vient sous vos pieds, qui est divisée sous 2 tubes qui sont verticaux sous chaque pied.
Il y a une question de Marine.
Est-ce que c'est un peu comme du wakeboard hors de l'eau ?
Alors, ça peut un peu apparaître à de la planche qui pourrait être du snow ou du wakeboard, dans le sens où on va beaucoup jouer du talon pointe et on va dire de l'équilibre.
Comment ça, du talon pointe comme un coureur automobile ?
Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on va vraiment jouer avec ses pointes pour l'écart, ce qu'on appellerait l'écart sur une board,
pour pouvoir
se déplacer. Donc, c'est-à-dire vraiment le quart avant sur les pointes pour pouvoir se déplacer en avant, ce qui pourrait un peu s'apparenter à ces nouvelles machines, tout ce qui est overboard, les petits trucs électriques qu'on a sur terre.
Oui, d'accord.
Voilà, déplacement de masse, tout simplement, en avant pour se déplacer en avant. Et on rappuie un peu sur les talons pour ralentir ou carrément remonter ou partir en marche arrière.
Et c'est facile d'initiation ?
Alors, nous, on fait des cours de 20 minutes. La grande moyenne des personnes commence vraiment à pratiquer et à sortir de l'eau sur nos conseils au bout de 5 minutes.
Ah oui, quand même.
D'accord. Donc, c'est pas comme le surf, quoi. C'est pas des années de pratique avant de pouvoir se lever, quoi.
Non, bien sûr que non. Sachant qu'en plus, tout ce qui est sport un peu de le wake ou le surf, à chaque fois qu'on tombe, déjà, on en prend une bonne. Et puis, le temps de se relever en bateau qu'on vient de vous rechercher ou le snow un peu claqué.
Ça, c'est sûr.
Parce que le sol est un peu plus dur. Là, on tombe vraiment pas de haut parce que les premières tentatives, on les tente à 20 cm, 1 mètre du sol, parce que c'est le moniteur qui a le contrôle de la hauteur.
D'accord.
Donc, les chutes sont rigolotes et on repart de suite.
Ouais, génial. Ouais, c'est vraiment un sport fun, quoi. Hein. C'est fun plus musique. Que technique, hein. Ouais.
Ah oui, oui, vraiment. Et puis on a les sensations dès le départ. On sent vraiment pour de vrai maintenant qu'on vole et on vole facilement.
Et du coup, on s'adresse à toute la famille, j'imagine. C'est multigénérationnel.
On pourrait même pas appeler ça une fourchette, mais un râteau. J'ai fait voler de 6 ans à 81 ans.
Ah, bien vu. Bien vu, bien vu, bien vu. Vous pouvez aller plus loin. Hein. Je suis sûr qu'il y a des 90 et plus qui restent amateurs de ce genre de sensations.
Ah, ben hein, je les invite et si je bats le record, je leur offre le tour.
Roman, qu'est-ce que ça coûte de s'initier justement, de faire quelques heures?
Alors, on ne fait pas des heures parce que bien sûr, c'est un sport au début qui est quand même usant parce qu'on cherche à se développer.
Oui, bien sûr.
Mais c'est des séances de 20 minutes. Nous sommes à 70€ les 20 minutes.
D'accord.
Et on a des séances de 30 minutes à 80€.
Comme tous ces nouveaux sports mécaniques, c'est abordable. Bon, ce n'est pas donné, mais parce qu'il y a du matériel aussi, évidemment.
Bien sûr du matériel et c'est surtout que vous êtes privatisé vraiment avec
aussi.
Un coach. Un coach,
c'est-à-dire
vous avez un coach vraiment pour vous tout seul pendant tout votre temps d'initiation, comparé à d'autres sports où un moniteur pourrait prendre plusieurs personnes à la fois.
D'accord. Alors, est-ce que vous êtes donc à Saint-Laurent-du-Var, donc sur la côte. Est-ce que on peut estimer qu'il y a du développement pour ce sport? Est-ce que vous qui êtes évidemment aux premières loges, vous voyez de vos collègues s'installer un peu partout sur la Côte d'Azur?
Alors oui, moi je suis en place depuis 2014, j'ai eu la chance de connaître ça vers Monaco, après on s'est développé beaucoup dans le Var, et maintenant je suis revenu à Saint-Laurent-du-Var. Je dirais que le seul un peu problème de cette activité, c'est que des fois malheureusement les moniteurs sont pas forcément des bons pratiquants, donc ils ont du mal un peu à transmettre.
Comment on se forme pour trouver des moniteurs? Il faut à un moment donné pouvoir valider les acquis et le niveau.
Et c'est encore un peu le problème aujourd'hui et c'est ce qu'on essaie de développer avec les centres de formation. Aujourd'hui, les moniteurs de jet ski sont associés directement aux moniteurs flyboard sans avoir forcément pratiqué.
Ah oui, parce que évidemment, vous tous, du flyboard, vous êtes tous avant tout des fans de jet ski, hein, j'imagine.
Exactement.
Vous venez tous de là.
On vient tous du même monde. Alors nous, maintenant, dans nos centres de formation, on fait pratiquer le flyboard parce que pour moi, c'est une obligation. On ne peut pas transmettre une activité si nous-mêmes, on n'arrive pas à
la gérer.
Donc nous, on forme les jeunes dans nos centres. Et du coup, on commence vraiment à sortir vraiment des moniteurs vraiment compétents.
Et enfin, pour avoir couvert vraiment tout le sujet, est-ce qu'il y a un côté sportif avec une fédération? Est-ce qu'il y a des compétitions de flyboard? Est-ce que ça reste que du loisir?
Alors non, bien sûr, il y a depuis maintenant 4-5 ans des championnats du monde, des championnats d'Europe.
D'accord.
Il y en a eu
avec des figures, j'imagine.
Exactement. En fait, ouais. Simplement, c'est des passages de 1 minute. Et c'est purement du freestyle. Voilà,
avec
un jury qui
de l'artistique,
note vraiment,
quoi. Ouais.
Exactement. Et je vous invite fortement à voir ça. Vous avez ça sur les réseaux sociaux. Très facile d'accès en tapant championnat du monde flyboard. Et
bien
vous
sûr.
Pouvez voir qu'on peut faire 3 ou 4 saltos d'affilée de 25 mètres, 23 mètres de haut.
Ah bah dites donc, oui, effectivement.
Oui.
Mais il y a du niveau, hein, je suis sûr.
Ah bah oui.
En tout cas, comme c'est une jeune fédération et un jeune sport, il y a encore de la place, hein, c'est pas bouché. Si vous voulez être futur champion du monde, vous pouvez commencer par 20 minutes d'initiation chez Roman cet été et puis être un jour champion du monde si vous êtes jeune et que vous vous y mettez.
Qui sait, avec grand plaisir. En tout cas, nous, on fait des forfaits avec des évolutions et puis... tout le monde se régale et
super.
Personne
s'ennuie. Super, on est très content d'avoir fait connaître votre activité et votre sport à ceux qui nous écoutent ce matin et qui vont sûrement avoir envie de s'y mettre pendant l'été. Moi-même, j'avoue que quelques saltos, je ne dis pas non,
oh là là.
Pendant les... Ah ben oui, je suis comme ça, moi. Allez, on se retrouve immédiatement pour continuer à parler de la belle cuisine de cette région de Cannes et de l'arrière-pays cannois. À tout de suite.
Sud Radio, les routes de l'été, Vincent Ferniaud.
O samba da minha terra deixa a gente morre.
Une ambiance bien brésilienne ce matin pour continuer à rendre hommage à Jorge Gilberto, cet immense auteur-compositeur qui nous a quittés samedi dernier et qui a fait parmi les plus belles sambas qui existent et qui sont dans notre inconscient collectif. Pour nous balader sur les petites routes tournantes de l'arrière-pays cannois, je trouve que ça marche pas mal, cette bossa nova. Alors aujourd'hui, on va s'occuper un peu de cuisine et surtout enfin, j'allais dire enfin, parce que tout le monde attend ça. Ici dans le studio, parfois il y en a qui passent une de tête à Sud Radio en disant t'as eu le menu du jour. Et pas encore, c'est à la fin de l'émission, voilà, dans ce dernier quart d'heure. Et nous allons aller du côté de Mougins, qui est une vraie ville de gastronomie.
Sud Radio, les routes de l'été. Le menu du jour.
Le menu du jour, c'est le menu d'un très bon chef de l'arrière-pays cannois à Mougins. Mougins qui était la ville de Roger Verger. On en a parlé tout à l'heure avec Jacques Chibois. Roger Verger qui a été vraiment le premier promoteur, le plus grand chef de la cuisine de ce coin de France. Et c'est Nicolas de Kerky qui est avec nous. Bonjour Nicolas.
Bonjour Vincent.
Comment ça va, Nicolas, dans ce bel arrière-pays? Je disais Mougins, c'est vraiment, avec en plus les Étoiles de Mougins, qui est un festival qui revient chaque année, les Étoiles de Mougins, Mougins, c'est une ville de gastronomie.
Oui, tout à fait. Ben déjà, merci de nous avoir invités à faire cette émission ce midi.
Je vous en prie, moi je prends les meilleurs, hein, c'est tout, hein, je suis tranquille.
Non, ben, merci du compliment. Mais c'est vrai que non, le village de Mougins est vraiment un village atypique par sa gastronomie, par sa beauté. Et c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui s'y mêlent. À quelques kilomètres de la côte, c'est vraiment très agréable.
Oui, et puis alors, Nicolas de Kerky, il est étoilé hein, dans son restaurant Le Paloma. Et on peut dire que vous y faites une cuisine qui est entre une cuisine traditionnelle, parce qu'on ne peut pas lâcher évidemment les produits et tout ce passé culinaire de Mougins, et puis vos créations à vous, c'est-à-dire la fusion entre le passé et l'avenir, quoi.
Oui, tout à fait, c'est exactement, c'est bien résumé. Ma cuisine, c'est entre tradition et création, et c'est ce qu'on peut retrouver sur la carte tout au long de l'année, à travers les saisons.
Alors, vous connaissez l'exercice du menu du jour, il est simple, hein, c'est de dire, voilà, si je suis aujourd'hui un baladin dans cet arrière-pays cannois et que je monte à Mougins, j'entre au Paloma, qu'est-ce que je vais trouver comme menu du jour? Décrivez-moi un petit peu.
Ben, aujourd'hui, on est quand même en pleine période estivale, donc on va rechercher de la fraîcheur. Et pour commencer, c'est vrai que je vous engagerai à goûter les rougets de roche de Méditerranée.
Ah, 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 ah.
Ah oui, c'est vraiment fabuleux. On les retrouve sur le marché Fortville de Cannes, transportés jusqu'à Mougins, garnis de péquillos, tapenades de la région, fines tranches de basilic à l'intérieur, servi avec son aioli citronné. C'est quelque chose de magnifique.
Ah là 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 là. Alors, il faut quand même s'arrêter sur les péquillos, qui sont ces petits piments doux de Navarre. Enfin, doux, pas aussi doux que du poivron. Hein. C'est un petit peu, un tout petit peu plus chaud, hein.
Tout à fait, légèrement relevé. Et c'est vrai qu'avec l'association Péquillos Aioli, on retrouve vraiment justement les bases de notre terroir et de notre région PACA.
Et Nicolas de Kerky, quand vous dites aioli citronné, ça veut dire qu'il va être un petit peu adouci en ail et musclé en zeste de citron, par exemple?
Oui, tout à fait, parce qu'on reste vraiment sur une entrée. Donc c'est vrai que c'est vraiment un souhait de ma part. J'ai voulu apporter de la fraîcheur, j'ai voulu apporter ce côté citronné, et justement un petit peu moins aillé, afin que ça soit plus accessible sur une entrée.
Ouais, c'est ça, que tout le monde puisse en manger, parce que exactement, moi j'adore l'ail, mais j'avoue que l'ail au lit à déjeuner, vous avez la sieste qui est un peu le chargé derrière.
Complètement.
Qu'est-ce qu'on va avoir comme plat après ces beaux rougets de Méditerranée?
Ah ben alors en ce moment, on est quand même dans le cep d'été qui vient d'arriver, donc il faut savoir en profiter. Tout le monde pense que les cèpes viennent uniquement au mois d'octobre, mais une des périodes les plus propices, c'est maintenant, des beaux cèpes magnifiques qui commencent à arriver
dans la magnifique
région française. Et c'est vrai que je l'accompagne d'un Saint-Pierre pain au riz soufflé.
Il y a Marine qui fait aïe, ça y est, elle a touché. Vous l'avez touché au cœur directement là, avec le Saint-Pierre.
Ouais, le Saint-Pierre était vraiment un poisson magnifique, avec sa chair tendrue, avec son côté un petit peu fichi, légèrement pané au riz soufflé, sarriette sur le dessus, accompagné d'un petit carpaccio de cèpe rôti, cèpe confit.
Il le fait exprès, là.
Vous êtes en train de m'énerver, Marine, Nicolas. Elle est toute énervée. Il faut vous dire que Marine, elle est d'une famille de poissonniers. Elle vendait du poisson sur les marchés en Belgique quand elle était petite. Hein. Elle mettait la main dans la glace.
C'est
donc,
ça.
Vous parlez Saint-Pierre, tout de suite, ça lui tape directement au cœur.
Tout ce qui est Saint-Pierre, turbo, ça me parle.
Les boissons blancs et plats. Alors, le Saint-Pierre, ce qu'on peut dire du Saint-Pierre, c'est que c'est une chair très délicate, mais très ferme. Hein. On a perdu Nicolas. Ouh là 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 là.
Oh, oui, en tout cas, le Saint-Pierre, c'est vraiment un des poissons qui est le plus plat, le plus ferme.
La particularité, c'est quand même qu'on perd 50% du poids du poisson aussi, en l'épluchant. Hein, parce que aussi. Les filets, il a un coffre qui est très large, un ventre qui est très large. Et donc, quand on prend le filet, on s'aperçoit qu'on a perdu une partie par rapport à ce qu'il est.
C'est souvent pour ça que les poissons plats sont assez chers aussi à l'achat. Enfin, le filet de Saint-Pierre et de Turbot et ce genre de poissons plats sont plus chers aussi.
Et puis, il a raison, Nicolas de Kerky, de dire qu'on doit manger des cèpes en été. On pense souvent automne. Mm-hmm. Hein, et ces pousses de bolets, il n'y a pas que les cèpes d'ailleurs. Hein, il y a les cèpes de Bordeaux, mm-hmm. certes, c'est le cèpe. Hein, mais il y a aussi ce qu'on appelle les cèpes tête de nègre. Il y a aussi des bolets jaunes, des bolets baies. On peut avoir toute une famille de bolets qui viennent en été, dans des pousses d'été. Dès qu'il y a un petit peu de pluie avec le soleil, ça sort comme des champignons, on dirait. Hein. Elle est malade, celle-là. Effectivement. Alors, malheureusement, j'ai perdu en route Nicolas de Kerky. Nicolas, on vous a retrouvé ou pas ? Non. Ah non, toujours pas. Hein. Alors, je vais vous dire un truc. Il y a un truc qui est extraordinaire aussi, c'est les oranges. Parce que l'orange, l'amanite des Césars, qui est un des plus fins comestibles, on parle champignon d'été, c'est un champignon de jour chaud, c'est un champignon d'été et du sud. Et notamment sur la Côte d'Azur, on trouve des oranges.
Il ressemble à quoi d'ailleurs cet orange ?
Alors ça ressemble à une... Vous savez l'amanite tumouche, là, les amanites des Schtroumpfs, là, avec des points blancs. C'est un peu la même chose, sans points, c'est-à-dire que le chapeau est orangé foncé, et la chair, et c'est sa particularité, c'est la vraie grande amanite comestible et délicieuse, la chair est jaune d'or.
Ah oui.
Alors que les amanites blanches, méfiance.
Ah oui.
Méfiance et grosse méfiance.
Dans tous les cas, méfiance.
Hein Nicolas, j'étais en train de parler des oranges aussi, puisqu'on parlait des cèpes. Hein,
oui,
on a la chance d'avoir des amanites des Césars sur la côte, parce que c'est un champion du sud.
Et c'est vrai que c'est de la même famille, et c'est vrai que pour l'instant, il faut vraiment un petit peu en profiter de toute cette périodicité de beaux champignons. Et c'est vrai que le terre et mer avec le Saint-Pierre ou un autre poisson à chair blanche, c'est très agréable.
Allez, rapidement, pour terminer, parce qu'on vous avait perdu, on en était désolé, le dessert, alors, pour finir de rêver.
Ah ben, en ce moment, on est quand même sur la belle fraise de saison.
Aïe.
Donc, c'est vrai que je l'ai accompagné d'une pavlova, donc une meringue légèrement séchée, garnie d'un tartare de fraises au miel de lavande, et accompagnée de sa crème glacée au miel. Donc, on retrouve les fraises, la lavande.
La lavande, qui est chère à l'arrière-pays aussi. Hein,
et puis
Écoutez, c'est bien parce que Marine, elle avait goûté la pavlova de Franck Putla à Carcassonne vendredi dernier.
Pavlova qui donne envie.
Une pavlova aux fraises.
Il faut venir à Mougins.
Et lui, il met des olives noires confites, ce qui est pas mal aussi. Voilà. Dans des notes de garrigue, comme ça. Merci beaucoup, Nicolas de Kerky.
Merci,
c'est au Paloma, restaurant étoilé de Mougins, patrie de la gastronomie. Vous saluerez Richard Galli, le maire pour nous de Mougins, qui se bat aussi pour faire rayonner la gastronomie mouginoise à travers le monde. Voilà.
Eh ben merci beaucoup.
Et
merci
bel été. Marine, je crois qu'on a un auditeur
qui va nous dire. Prêt à gagner, ce Michelin.
Je crois que s'il n'a pas compris dans quel coin on se trouvait. Bonjour monsieur. Bonjour Didier.
Bonjour Vincent. Bonjour Marine.
Comment ça va Didier ? D'où appelez-vous ?
De Romainville, dans le 93.
Ah ben, oui, le Didier de Romainville. Il est à tous les étages dans l'émission Les routes de l'été. Didier, est-ce que vous pouvez me dire dans quelle région on se trouve ? Vous avez dû comprendre depuis le début de l'émission ?
Oui, c'est Cannes quand même.
Cannes et l'arrière-pays, bien sûr, Didier. Eh ben voilà, vous avez gagné, c'est chouette. Parce que, je le disais, après l'Île-de-France et Paris, la Côte d'Azur est évidemment la deuxième grande zone de restaurants étoilés et de grands restaurants en France. Hein, et c'est normal avec tout le tourisme qui s'y précipite. Donc vous retrouverez ça dans l'édition 2019 du Guide Michelin, du Guide Rouge, que je vous offre avec grand bonheur. Vous êtes amateur de restaurants ?
Oui, j'aime beaucoup les brasseries. Merci à Michelin et à Sud Radio.
Eh ben voilà, génial. On vous l'envoie. Je vous le dédicace pas parce que c'est pas moi qui l'ai écrit, mais le cœur y est. Et bonne journée, très bel été, Didier, un été gourmand avec le guide qu'on vous offre. Mes amis, on a passé un bon moment ensemble. On s'est ouvert l'appétit comme tous les jours, et ça c'est pas malin parce que après, on n'a pas toujours le temps d'aller déjeuner, hein, Marine.
Tout à fait.
Hein, avec la préparation de l'émission de demain, hein, qui va être aussi extrêmement riche. On va changer complètement d'ambiance puisqu'on sera
dans le Haut-Rhin.
en Alsace, dans le Haut-Rhin. Effectivement, le Haut-Rhin, c'est quand même la route des vins, qui est une merveille. Hein. Alors là encore, avec grande modération, mais la route, on a le droit, sans modération. Et notre route de l'été, ça sera la route des vins demain, autour de Colmar. Allez, rendez-vous demain sur les routes de l'été. Merci Marine, merci à tous de nous avoir fait briller cette région cannoise avec un autre éclat que celui qu'on lui connaît d'habitude, ce bling-bling qu'on a un peu délaissé aujourd'hui pour retrouver l'authenticité des Alpes-Maritimes. À demain en Alsace. Hop là, guys. On se retrouve demain sur les routes de l'été.